Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Dominique Vallière et Yasmine Abdel-Fadel.
La rencontre Vallière-Abdel-Fadel.
Dominique, Yasmine, bonjour à vous deux.
Allô, allô.
Alors, c'était discours d'ouverture hier de François Legault. Discours assez long, là, un peu plus d'une heure, où on a parlé beaucoup de santé, de fierté, un peu d'éducation, d'économie, de numérique. Qu'est-ce que vous en retirez, là, Yasmine? Qu'est-ce que tu retiens, toi, ce matin?
Ben, je retiens que le discours, comme tu le disais, était long. Ça a pris du temps avant de commencer à avoir des annonces, avant que le premier ministre commence à nous donner des affaires qu'on connaissait pas. Mais c'est surtout la vaste décentralisation du système de santé. Mais ça dit rien au commun des mortels. À monsieur, madame, tout le monde qui regarde le discours, qu'est-ce que ça va faire pour lui, là, ultimement? C'est pas encore concret. Autrement, les 37 000 places en garderie qui devraient être annoncées cette semaine concrètement et Internet de vitesse, ben ça c'est des annonces qui avaient déjà, on avait déjà entendu parler de ça quand ils avaient signé les ententes avec le fédéral. Le premier ministre a pas dit hier que c'était grâce à des ententes au fédéral, là. C'était grâce à François Legault et au gouvernement de la CAQ qu'on va avoir 37 000 places et Internet de vitesse partout en région au Québec.
Dominique?
Ben, sur les 37 000 places, là, je veux pas révéler d'informations privilégiées, mais la décision avait été prise avant que le gouvernement fédéral donne son intention de transférer des milliards. Ceci étant, moi, ce dont je retiens d'hier, c'est que c'est comme si François Legault avait dit, vous vous souvenez de mes promesses de 2018? Ben, moi, oui. Parce que voici la liste, voici là où on est rendu, voici ce qu'on a pu faire, puis voici où est-ce que ça a pas avancé, soit à son goût à lui, ou où est-ce qu'on a besoin d'aller peut-être un petit peu plus loin parce que la pandémie a malmené des réseaux, santé, éducation, petite enfance, etc. Et moi, je pouvais pas m'empêcher de regarder le visage des ministres parce que pour beaucoup, il y avait l'aboutissement de beaucoup d'efforts pour se retrouver dans ce discours-là. Je pense à Éric Kerr, évidemment, parce que ça a été comme la première annonce, là, ce ministère en titre du numérique. On doit imaginer qu'il y a beaucoup d'heures de planification en arrière de ça pour que ça se termine par être 3-4 phrases du premier ministre. Alors, je regardais les ministres qui semblaient se dire « On est content parce qu'on a obtenu ce qu'on voulait, mais maintenant, faut livrer, les amis. Il reste un an. »
Ben, j'espère qu'ils ont pris des bonnes vacances, les ministres, cet été, puis qu'ils se sont reposés, qu'ils ont rechargé les batteries, parce qu'ils vont travailler, puis ils vont travailler fort. Le premier ministre a tout un plan pour eux pour les prochains mois, là.
Mais à quel point ils sont obligés de l'accomplir, ce plan-là, d'ici un an? C'est pas mieux si la CAQ le met en branle, en fait beaucoup, mais ne réalise pas tout avant la prochaine élection pour dire aux électeurs, regardez, on a eu 20 mois de pandémie à peu près, on n'a pas eu le temps de tout faire. Mais ça s'en vient, là. Ça s'en va dans la bonne direction. Là. Votez donc pour nous, vous n'avez pas vraiment le choix finalement, parce que vous aimez ce qu'on a commencé, puis c'est pas terminé encore.
Ben, c'est sûr qu'il faut il faut commencer tous ces chantiers-là. Certains vont prendre moins de temps à réaliser. Tu sais, quand le premier ministre dit « fini l'extraction d'hydrocarbures au Québec », ben, tu sais,
ben, c'est pas compliqué, il y en a pas.
C'est ça. Tu sais, ils peuvent déjà mettre un check dans la réalisation de leurs travaux. L'annonce de Internet haute vitesse a déjà été faite avant les élections fédérales, ça c'est fait. Cette semaine, il va nous annoncer les 37 000 places puis comment ça va se faire. Encore, ils vont pouvoir dire en cours. Puis ils vont devoir commencer tous ces chantiers-là pour se présenter devant les Québécois en septembre prochain puis dire, regardez notre feuille de route. Non seulement on a des accomplissements, mais on a des dossiers qui sont déjà en cours.
Dominique?
Ben oui, mais tu sais, la modification de la formation professionnelle, c'est pas demain matin. Créer un pôle hydrogène vert, c'est pas demain matin. Créer un pôle transport électrique, c'est en train de se faire, mais c'est pas demain matin. Idem pour les batteries. Cours éthique et culture religieuse, on peut s'imaginer qu'il va y avoir là-dessus des représentants de la part de plusieurs personnes pour s'assurer de c'est quoi la définition de culture québécoise? Est-ce que ça va inclure tout le monde? Dans quelle optique? Donc, ça aussi, c'est pas demain matin. Mais effectivement, je pense que, tu sais, on va se retrouver dans la situation que tu décrivais puis qu'Yasmine décrivait, c'est-à-dire qu'il va y en avoir une partie qui va être faite. Et ensuite, on va dire qui de mieux pour finir la maison que celui qui a posé les fondations?
Parlons de la santé un peu. Yasmine le disait, Dominique, on veut décentraliser, c'est pas clair. Moi, quand j'entendais ça, j'entendais on va mettre en pièce la réforme Barrette, on va rechanger encore une fois les structures. Est-ce qu'on n'est pas condamné au Québec à essayer des affaires, faire des structures? Je pense, on pensait à M. Rochon hier qui est décédé, virage ambulatoire. Lui aussi avait décidé ou essayé de changer les choses, essayer de régler le système de santé il y a plus de 20 ans. Mais dis, est-ce que vraiment là, cette fois-ci, c'est la bonne ou il y en a qui ont raison d'être sceptiques puis qui disent, bon, ben le ministre va essayer ce que les autres ont fait puis la machine est tellement lourde, l'immobilisme est tellement important que finalement, ça ne fonctionnera pas vraiment.
Mais le ministère de la Santé, c'est tellement un bateau que quand tu répares une partie de ton bateau puis que tu as fini de le réparer, tu te retournes puis il y a déjà de l'eau dans l'autre partie puis il faut que tu mettes une urgence là-dessus commencer à la faire. Par contre, hier, ce que le premier ministre nous a dit, c'est le privé est out de finalement, on fait sortir le privé des agences de placement pour avoir notre propre mécanisme. Et il a servi un avertissement aux omnipraticiens pour leur dire, si vous n'êtes pas capable de prendre plus de patients, moi, je vais m'assurer que vous allez faire. Puis là, je sais pas si vous avez vu ça, mais moi, je vois toute la sympathie pour le personnel infirmier préposé aux bénéficiaires, on les caresse dans le sens du poil. Et pour les médecins, ben là, vous allez devoir coopérer, vous allez devoir vous plier à ce qu'on vous dit. C'est un discours qui est quand même différent qui sort de la part du gouvernement.
Dominique?
On a trouvé un wedge là pour la prochaine campagne électorale parce que on va pouvoir dire nous les médecins soit on a commencé à les mettre au pas ou soit c'est notre intention ferme de les mettre au pas puis je pense pas qu'il y a des manifestations de Québécois qui trouvent que les médecins gagnent pas assez cher ou travaillent pas assez ou travaillent trop fait que là-dessus il va
surtout
avoir
que les médecins
wedge,
de famille mais... les Québécois il y en a beaucoup qui en attendent là. Si vous êtes inscrit récemment à cette liste pour avoir un médecin de famille puis on vous dit on vous donnera pas une durée d'estimation de temps d'attente. De toute façon, on va prendre des années avant que vous ayez quelqu'un.
Il y a des Québécois qui vont vouloir qu'il y ait des manifestants d'omnipraticiens pour pouvoir aller s'en trouver un dans la manifestation.
C'est ça. Hey, vous êtes médecin, cherchez-vous des médecins. Moi, je suis orphelin là, depuis 5-6 ans. J'aimerais ça avoir une prescription. Là.
Non, mais c'est sûr. Mais tu sais, comme tu le disais, si c'est pour être un débat de structure, je pense que les Québécois vont décrocher assez vite. Si c'est pour dire décentralisons du pouvoir dans les CIS et les CIUS, et sans trop toucher à l'organigramme, sans trop toucher à, mais en disant réellement aux gestionnaires qui sont sur le terrain, vous connaissez votre population, vous connaissez ses besoins, vous savez quel bassin d'employés vous avez, donc vous allez être en mesure de prendre des décisions. Ça, je pense que ça va être bien reçu, probablement et par les gestionnaires et par la population. Donc, si c'est ça, il y a une chance. Mais effectivement, on a vu tellement de réformes. Que c'est normal que d'être un peu cynique. Il y avait aussi hier toute la question de l'aide ou des soins à domicile. Ça fait longtemps, le gouvernement du Parti québécois avait essayé d'aller dans cette direction-là avec Régent Hébert en disant les gens veulent être soignés à la maison, permettons-leur d'être soignés à la maison. La réalité, c'est qu'il y a des services qui peuvent être offerts actuellement, facilement. Mais il y en a d'autres. Souvenez-vous de la saga du dernier gouvernement, du deuxième bain par semaine. C'était vrai en CHSLD, mais c'était aussi vrai en soins à domicile. Si on n'est pas capable de garantir deux bains à une personne qui veut vieillir chez elle par semaine, est-ce qu'on va vraiment être capable de lui garantir le reste du package de soins auquel elle a le droit? Je suis pas sûr. Fait qu'il y a un test de crédibilité là-dessus aussi. On entend l'intention, mais il va falloir être capable de suivre, de donner un calendrier rapidement.
Je veux vous faire entendre Gabriel Nadeau-Dubois, Paul Saint-Pierre Plamondon, notamment dans les critiques hier. On va les écouter. Je veux savoir ce que vous pensez des critiques de l'opposition.
Ce qui m'a marqué, c'est qu'on a entendu aujourd'hui le discours d'un gestionnaire. Au sortir de la pandémie, au sortir d'une épreuve aussi tragique pour le Québec, ce dont on aurait eu besoin, c'est un discours de visionnaire. Ce que j'ai entendu, c'est une énumération, une collection, une brochette de petites réformes, alors que ce dont le Québec a besoin, c'est de grands projets. J'ai pas entendu de projet de société aujourd'hui. J'ai entendu une énumération de promesses électorales, pour la plupart d'entre elles des promesses de 2018.
Donc aujourd'hui, on a été témoin d'un exercice de lancement de campagne électorale de la CAQ, à même les fonds publics, à même le temps qui normalement est consacré à faire des lois, et sans la supervision du directeur général des élections. C'est un exercice de slogan plutôt que de résultat. Un gouvernement qui vraisemblablement est accro au marketing et à la visibilité.
Méchant gouvernement accro au marketing. Dominique Anglade dit à peu près la même chose que Gabriel Nadeau-Dubois. Le manque de vision, on sait pas trop où on s'en va là-dedans. Qu'est-ce que vous pensez des critiques de l'opposition? Est-ce qu'ils savent même plus sur quel pied danser, Dominique?
Ben, c'est comme une figure imposée. Si on va voir ce que les oppositions disaient de Jean Charest quand il a prorogé, on peut piger dans le même sac de mots. si on va voir ce que les oppositions pensaient du PQ quand ils ont prorogé dans les gouvernements précédents, le gouvernement Marois, là, parce que Mme Marois l'a pas fait, elle n'a pas eu le temps, M. Pillard l'a pas fait, mais tous les gouvernements avant l'ont fait. On pige dans le même sac de mots. Là. Je veux dire, ce sont des figures imposées. Le PQ qui disait c'est des slogans, c'est les libéraux qui disaient c'est des slogans sous le PQ, puis c'était le PQ qui disait c'était des slogans sous les libéraux. J'entends, pour des gens qui disent que le gouvernement dit pas grand-chose de nouveau, j'entends pas grand-chose de nouveau dans les critiques non plus.
Ben, je trouve pas que les critiques sont pertinentes, honnêtement. Moi, j'aurais aimé qu'ils attaquent ou qu'ils aient plus à dire, qu'ils aient des propositions. Tu sais, quand Gabriel Nadeau-Dubois qui nous dit qu'il y a pas de projet de société dans le discours du premier ministre, oui, mais c'est quoi le projet de société que toi tu proposes, Gabriel Nadeau-Dubois? Et on propose pas plus. Quand tu dis qu'il y a rien, il y a pas de vision, je m'excuse, mais quand le premier ministre parle d'hydroélectricité puis que finalement l'hydroélectricité va devenir notre au cœur de notre stratégie économique, de notre stratégie environnementale, de notre stratégie énergétique, il y a quelque chose là-dedans. On est en train de positionner le Québec sur l'échiquier mondial et nord-américain. Je sais pas, les oppositions doivent trouver des angles beaucoup plus pertinents, beaucoup plus percutants pour attaquer le premier ministre, parce que là, il doit être en train de rire dans sa barbe, là, honnêtement.
Puis faire des propositions aussi, là.
Oui.
Faire des propositions. Écoute, j'entendais hier Paul Saint-Pierre Plamondon dire le cours d'éthique et culture religieuse, ça fait 5 ans que le PQ demande ça, mais il parle du PQ. Il parle pas des gens, il parle pas de ce que ça change dans la vie des gens. On est là à la strate là, péquiste parlant du PQ au plus de péquistes possible. Mais je veux dire, la base elle se réduit là. Faut changer le type de discours, faut être capable de projeter les citoyens vers l'avenir puis d'offrir une vision. Dans ce type de critique là, j'ai rien entendu tout à l'heure.
Dominique, Yasmine, merci à vous deux. Ah, Céline, Anaïs, tu sais comment me faire sourire le matin?
Céline
Ginette
Dion.
Céline Dion, c'est... c'est triste pour les grandes chanteuses, mais après ça, ça nous permet de les écouter, puis ça fait quand même un petit baume le matin en les écoutant.
Ben oui, ça commence tellement bien la journée, t'as tout à fait raison là-dessus. Bon, ce qui commence moins bien, évidemment la journée, ou ce qui a peut-être moins bien terminé la journée hier de plusieurs fans de Céline, c'est d'apprendre justement que Céline Dion reportait à une date indéterminée. Tu sais, c'est là que ça devient un peu plus stressant. C'est pas on remet ça dans une semaine, c'est je reviendrai lorsque je serai apte à monter sur scène. Donc Céline Dion qui a reporté, bon, la première à Vegas et plusieurs dates également de son nouveau concert au Resort World, donc du 5 au 20 novembre. Ensuite, il y avait des dates également au mois de février. On parle de spasme musculaire et je vais te faire entendre hier Claudette Dion, la sœur évidemment de Céline, étant en entrevue à TVA avec
Pierre Bruno.
Pierre Bruno, merci. J'avais un petit blanc. Avec Pierre, justement. Et elle a expliqué un peu, quand on parle de spasme musculaire, pour ceux qui ont vu Céline sur scène, je dis, elle est incroyable. C'est une vraie belle
scène. C'est une athlète.
Elle doit
là.
Être en forme. Ah, ouais, c'est vraiment une athlète. Et je savais pas, au niveau de la scène, que l'inclinaison pouvait vraiment venir jouer sur le physique de Céline. Donc, écoute ça.
Quand la scène était un peu une pente abrupte pour quand elle faisait ses spectacles,
ah oui.
Ça lui causait des problèmes aux muscles et à ses jambes et à ses pieds. Donc, au niveau de la musculature, je sais qu'elle a dû vraiment faire des exercices et s'entretenir. Et tous les jours, elle est vraiment une performante exceptionnelle. Elle se donne toujours à 110%.
Donc, c'est sûr, tu sais, t'es sur scène, elle qui porte des talons a pu finir.
Non, mais il y a ça, là, tu sais, je veux dire, t'es allé danser un soir puis t'as eu mal aux jambes le lendemain. Là, Céline a fait ça plus que toi, en talons, en chantant, en se grouillant sur scène.
Avec la scène qui est dans un angle en plus, tu sais, donc tout ça. Non, mais t'as tout à fait raison. Donc, bon, ben, Céline Dion qui va prendre soin d'elle. Évidemment, on a hâte de savoir un peu plus en détail quand est-ce qu'elle va revenir sur scène, parce qu'à Vegas aussi, évidemment, on comptait sur Céline Dion pour relancer la street, évidemment, donc la main, là où tous les spectacles se passent. Et hier, évidemment, lorsque c'est sorti, Philippe Vincent, j'en ai jasé aussi avec Benoît, qui avait raison aussi, c'est toute une industrie, tu sais, c'est vraiment une marque, hein, Céline Dion. Oui. Donc, il y a Céline sur scène, mais c'est également des danseurs, des musiciens, des producteurs, des petites boutiques avoisinantes, le resort qui espérait le retour de Céline pour vendre. Donc, c'est vraiment, évidemment, il va y avoir des dommages, entre guillemets, collatéraux suite à ce report-là. Donc, on espère que tout va se placer rapidement.
Et là, parle-moi du Club Illico qui a lancé sa programmation.
Oh, ça, c'est bien excitant. Moi, là, je suis une fan de contenu québécois. Club Illico qui a lancé hier sa programmation 2021-2022. Et c'est vraiment un nombre record de séries originales depuis le lancement de la plateforme en 2013. Au total, on parle de 1500 heures de contenu. Donc, des films, des séries jeunesse, des séries pour les adultes. Et là, il y en a quelques-unes, évidemment, qui ont retenu mon attention. J'ai très hâte de voir la fameuse la série qui s'inspire évidemment de la pièce de Michel-Marc Bouchard, donc La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Et si vous avez vu la pièce en 2019, vous allez retrouver les mêmes acteurs à la télévision. Donc on parle de Julie Le Breton, Magali Lépine-Blondeau, Éric Bruneau, Patrick Yvon, il y a même Xavier Dolan qui lui-même va réaliser mais jouer également un personnage. Et on nous ramène dans les années 90, là, ces deux frères et sœurs, un ami qui vit vraiment un gros drame, et là leur vie explose. Donc ça, c'est dans les séries à ne pas manquer. Il y a aussi Sophie de Raspe, à qui on doit le film Antigone, qui arrive avec Motel Paradis, Gilda Roy, Annick Lemay. Et là, c'est l'histoire d'une famille qui vont tenter de prouver qu'un de leurs membres, en fait, ne s'est pas enlevé la vie. Donc, ce serait plutôt un meurtre. Alors, c'est ce qu'on va suivre. Philippe Falardeau qui arrive avec Le Temps des framboises et Sandrine Bisson. J'aime tellement cette actrice-là qui est aussi bonne dans le drame que dans l'humour. Et là, on nous amène à la campagne, une femme qui débarque justement dans une ferme familiale. Elle qui connaît absolument rien à ça et qui finalement ben, va apprendre à découvrir, va découvrir plutôt comment ça se passe sur une ferme. Donc, c'est ce qu'on à ne pas manquer. Sophie Lorrain aussi, Philippe Vincent, ça, j'ai hâte de voir ça. La série Mégantique. Et là, c'est quand même délicat. On s'entend que c'est pas quelque chose qui s'est produit il y a des dizaines et des dizaines d'années. Donc là, on va suivre le destin de 8 personnes qui ont subi, qui ont vécu ce qui s'est produit à Lac Mégantic. Et je trouve ça bien. On est allé chercher des acteurs plus méconnus et c'était voulu, se disant, c'est pas vrai qu'une tête d'affiche va venir
en quelque sorte. Capable d'incarner aussi.
C'est ça. Ouais. Et il va venir voler la vedette. Tu comprends? On veut vraiment que la vedette, ce soit le drame, qu'on puisse nous faire sentir ce qui s'est produit à Lac Mégantic. Donc, on a décidé volontairement de prendre des acteurs moins connus. Et sinon, on a le retour de Léo, Les Honorables. Je te dis, on va faire du sofa cet hiver, je peux te le garantir.
Ouais, si jamais vous aimez pas l'hiver, c'est la solution parfaite, le Club Illico. Parle-moi du show du refuge qui s'appelle plus le show du refuge à cause de la pandémie, je présume.
Ben là, c'est ça. Le show du refuge devenu l'an passé le show, le no-refuge. En fait, le no-show du refuge. Mon Dieu, je me trompe dans mes phrases. Le no-show du refuge. C'est ça. On était vraiment 100% virtuel, évidemment, en raison de la pandémie. Et l'an passé, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va vendre des billets de spectacle. Pourtant, c'est diffusé à la télévision, mais à la place de faire un don, juste pour faire un don, t'achètes une place de spectacle. Il y a quand même, je trouve que c'est intéressant comme façon de procéder. Là, cette année, il y a 56 000 billets en vente. Imagine-toi, ça, c'est la grandeur du stade olympique. Donc, on espère, évidemment, aller chercher des dizaines de milliers de dollars. Je vous rappelle que c'est Dan Bigra qui est le porte-parole du Refuge des jeunes de Montréal. Donc, c'est un événement bénéfice qui existe depuis vraiment beaucoup d'années. Ce sera le 19 décembre prochain. J'ai hâte de voir parce qu'on a donné cette année la réalisation à France Baudouin. Puis on sait, France Baudouin, s'il y a bien une femme en télévision qui est extraordinaire, qui s'est tirée des ficelles en direct et tout se passe toujours bien, bien c'est elle. Donc, c'est elle qui sera à la réalisation. Puis au niveau des artistes, Marjo, Jacques Michel, moi j'aime ça, David Goudreau, entre autres, dramatique, et Angèle Dubois, donc les billets sont en vente. Ouais, on va finir avec du Angèle, imagine-toi, on a commencé avec Céline.
Mais avant, juste avant de te laisser, j'ai une question, tu vas-tu voir Dune bientôt?
Je vais voir Dune bientôt. On va s'en parler.
J'ai hâte que tu m'en parles. J'ai vraiment hâte que tu m'en parles. J'ai hâte d'aller
toi,
le voir.
Ce film-là,
ben, j'ai hâte d'aller le voir, mais je sais pas si je vais avoir le temps, visiblement, à jongler avec mon nouvel horaire de père. C'est un peu plus compliqué.
Et tes 12 heures par jour aussi de travail.
Ouais, c'est ça, ça, c'est ça. Ben, exact. Bon, écoute, on se laisse avec Angèle
Dubois. Évidemment, puis, Mission Impossible. Il y a Mission Impossible qui va sortir, mais James Bond aussi.
James Bond, oui.
On va s'en jaser, c'est sûr.
OK, génial. Merci beaucoup. Anaïs, salut.
Évoluer. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent
Jean-François
à...
Jean-François Barry. Un animateur pas comme les autres.
Salut Jean-François.
Salut Philippe-Vincent.
5-0. C'est tout ce que j'ai à dire.
Ouais, 5-0. Honnêtement, je sais pas par quel bout pogner ça. Je pense que personne le sait. J'ai écouté hier aux deux postes sportifs là, qu'on a... pour voir les commentaires, puis tu sais, tout le monde y va de son hypothèse, mais on n'est pas là à l'interne, on n'est pas dans le vestiaire, fait qu'on sait pas qu'est-ce qu'il y a qui ronge cette équipe-là, mais il y a quelque chose qui va pas. Hier, pour une deuxième fois en quatre matchs, on se souviendra que ça avait fait ça contre les Sabres de Buffalo, on est sorti à plate, là, mais
pas de patrie, pas là, ouais, c'est
pas
ça.
Rien, on n'était pas là, là, pourtant on vient d'en perdre trois collés, là, tu sais, fait que logiquement on aurait dû sortir avec un peu d'énergie au moins. Et en dedans, 3 minutes 36, c'était 2-0 pour les Sharks. On n'était pas prêt à commencer ce match-là. Donc, défaite de 5-0. Puis oui, après, là, le Canadien est revenu. Là. Puis à partir de la moitié du match, le Canadien a dominé complètement les Sharks. Mais en même temps, les Sharks avaient une avance de 4 buts. Eux autres, ils ont fermé le jeu, puis ils se sont juste comme assis là-dessus. Puis est-ce qu'on peut vraiment penser que le Canadien est revenu dans la partie? Je ne sais pas. Puis même si on est revenu, des poteaux, des filets ouverts manqués, pas capable de scorer. On a 3 buts en 4 rencontres. C'est épouvantable. La frustration a commencé à se faire sentir. On a vu Gallagher jeter les gants pour essayer de brasser l'équipe. Hier, Jeff Petrie, en point de presse, avait l'air de quelqu'un au funérailles. Ça avait pas de bon sens. Il y avait pas de mots. Il y avait rien à dire. Il pouvait pas expliquer pourquoi on sortait comme ça. Il pouvait pas expliquer. Il a dit, ça fait plusieurs parties, plusieurs périodes qu'on joue où on n'a pas d'effort.
Puis c'est quand même intense, là.
Mais ça, je comprends pas. Tu sais, je veux dire, Anderson, hier, s'est forcé. Josh Anderson, tu sais, il a travaillé, puis ça parut tout de suite. Quand tu travailles, là, à un moment donné, les bonnes choses arrivent. Là. Hier, tu sais, il y a eu une victoire encore des Sabres de Buffalo. Ils n'ont pas de meilleure équipe que nous autres. Les Sharks n'avaient pas de meilleure équipe que nous autres. Le Kraken a déjà une victoire depuis le début de l'année. Tu sais, je veux bien croire qu'il nous manque plein de morceaux, puis qu'on s'attendait à une saison plus difficile de la part du Canadien à cause de Weber, puis à cause de Price qui n'est pas là, puis Edmundson, puis tout ça. Mais de là à être aussi flat, ça laisse présager qu'il y a quelque chose d'autre à l'interne. Il y a quelque chose d'intangible que nous, on peut pas comprendre.
Mais qu'est-ce que tu veux dire, mettons, il y a comme un malaise à l'intérieur de l'équipe ou juste le fait que les éléments ne sont pas les bons ou sont pas à bonne place? Est-ce que c'est plus un enjeu stratégique de les joueurs s'entendent pas, il y a pas de leadership dans le vestiaire ou c'est... Marc Bergevin s'en va, on sait pas trop qui va être le coach. Qu'est-ce que tu veux dire d'intangible?
Je pense qu'il y a tout ça.
Okay.
Parce que je veux dire, on était, tu sais, parce que là, les fans sont les fans de Montréal, là, fait que là, tu sais, tout le monde met toutes sortes d'affaires sur les médias sociaux, puis il y a quand même quelqu'un qui a mis une vidéo hier de, on était dans la rue il y a pas si longtemps à célébrer le fait qu'on s'en allait en finale de la Coupe Stanley. Il y a quand même 60% de l'équipe de la finale de la Coupe Stanley qui est encore dans l'alignement du Canadien. Là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas tous devenus des pieds de céleri d'un coup sec. Pourquoi on travaille pas? Donc, oui, il y a quelque chose de plus. Est-ce qu'il y a un manque de leadership? Certainement. Ça, c'est clair. Le grand frère est parti. La ligne directrice, l'identité du Canadien est partie. Ça, c'est sûr et certain. J'ai rien contre des gars comme Lekkonen, comme Drouin, même Jeff Petrie ou Ben Chiarot, mais c'est pas des leaders comme Price puis comme Weber. Ça, c'est sûr et certain. Comme Dano aussi, qui je pense, emmenait quand même large dans le vestiaire et sur la patinoire. T'sais. Là, on laisse ça dans les mains de ces gars-là, de d'un Hoffman qui vient d'arriver, d'un Drouin qui, je pense pas, puis c'est pas pour casser du sucre sur Drouin, là, il va bien depuis le début de l'année, mais je pense pas que c'est un leader rassembleur dans le vestiaire qui va se lever, qui va faire
les choses. De toute façon, ça prend du temps, là, devenir un leader, là. Ça se fait pas en claquant des doigts, puis tu t'imposes pas nécessairement, ça devient naturellement. Là.
Fait que j'ai l'impression qu'on joue contre des équipes, alors que nous autres, on est une coupe de, une gang de gars qu'on met tout le monde ensemble. On c'est comme d'une ligue de garage, là. On met tout le même chandail, puis let's go, les gars, on y va. Mais oui.
Mais moi, ça me fascine, ce que tu me dis, là. On ne travaille pas. Il n'y a pas d'effort, là. Pour moi, ça, c'est fascinant de savoir que des joueurs de hockey bien payés comme ça n'essayent pas ou ne poussent pas ou ne sont pas en train de se dire, hey, il faut vraiment travailler plus fort, là.
Fait que pourquoi ça marche pas?
Ouais.
Est-ce que c'est parce qu'on est, pas désabusé, mais tu sais, quand t'as joué des matchs si intenses il n'y a pas si longtemps, parce que ça fait pas longtemps quand même, ça fait 100 jours là, la finale de la Coupe Stanley, est-ce que t'as de la misère à te motiver pour un début d'année? Est-ce que l'été était trop court puis t'as eu de la misère à te remettre de tes bobos, etc.? Est-ce que c'est justement le fait que Weber puis là, pis t'as regardé ses gros yeux pour que tu travailles? Est-ce que ça se sent la grogne à l'interne? Parce que moi, je suis certain qu'il y a un lien. T'sais, Bergevin a l'air aigri depuis la fin de l'année passée. Il a parlé contre les journalistes, il a parlé de la pression, du fait qu'il n'y a pas de contrat. Cette espèce d'histoire-là ne doit pas aider. Là. T'sais, présentement, les gars dans le vestiaire doivent se dire la même chose que nous. Qui va faire un move? Si Bergevin n'a plus les coups des franches, qui va nous apporter de l'aide? Qui va. C'est qui s'en vient? C'est qui le boss? Y a-t-il un boss? C'est plate à dire, mais ça prend un boss dans une entreprise. C'est-tu Mawson le boss présentement? C'est-tu Bergevin? Y a-t-il encore une ligne directrice? En même temps, je suis pas là à l'interne. Peut-être que Bergevin est descendu hier dans le vestiaire puis qu'il a brassé tout le monde, là. Mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas depuis le début du camp qu'on écroche. On peut prendre les cérémonies. Tu sais, moi, j'étais là aux cérémonies d'ouverture. Puis je m'attendais à une petite surprise. Je me suis dit, il y en a un des trois, là, entre Edmundson, Weber, puis Price, qui va être là. Mais il y avait personne qui était là.
Juste pour dire, ouais.
Non, mais Joel Edmundson, il est blessé. Les joueurs, les autres joueurs blessés étaient là. Pourquoi il n'est pas là, Joel Edmundson? Qu'est-ce qu'on nous cache? Il est-tu en fauteuil roulant, ciboulot, puis on peut pas nous le montrer? On veut pas nous montrer que c'est si grave? Comment ça se fait qu'il n'était pas au match d'ouverture, Joel Edmundson? Il est payé par le Canadien. Les joueurs qui n'étaient pas habillés étaient en habit cravate, puis ils nous ont fait un petit halo de la main. Pourquoi lui n'est pas là? Chez Weber, qu'on dit, on le remplacera pas, c'est encore le capitaine du Canadien de Montréal. Ben, si c'est encore le capitaine, pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il ne nous enregistre pas une petite vidéo pour les fans? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas là? On a pris de la photo officielle sans Price, sans Weber, puis sans Edmundson, mais on a laissé juste deux trous. Et le photographe a dit, il y a deux joueurs que je vais rajouter. Mais il y en a trois qui sont absents, lequel qu'on ne mettra pas? Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette équipe-là, puis c'est triste, puis à 0-5, honnêtement, déjà, on peut dire que le Canadien va avoir... Déjà, on savait que ça allait pas être une grande équipe cette année. Le Canadien va avoir beaucoup, beaucoup de misère à faire des séries, ça, c'est sûr et certain, et à remettre du monde dans les estrades, parce qu'on va parler de ça maintenant.
Ouais, mais c'est ça. Il me semble que j'ai vu des photos, je me disais, c'est-tu la fin du match? Il y a comme plus personne, ou il y a pas grand monde?
Moi, je me suis demandé si c'était pas la fin du monde. Pas la fin du match. J'ai jamais vu ça. Faut dire que c'est la première fois que ça arrive, hein, 4 défaites en début de saison depuis 1995. Et en 95, ce qui est arrivé, c'est qu'après 4 matchs comme ça, ou 5 matchs après un mauvais départ, on a congédié Serge Savard et Jacques Demers, là. Puis c'est là que Mario Tremblay puis Réjean Houle sont arrivés. Bon. Il y a plusieurs choses qui expliquent le fait qu'il y avait moins de monde dans les estrades. On a dit du côté d'Evenco que on a dû se revirer sur une scène, puis que relocaliser tout le monde là après la pandémie, parce que pendant un bout de temps là c'était configuré 7500 personnes, donc les gens qui avaient des billets de saison là veulent revoir leur billet de saison qu'il y avait avant là, maintenant qu'il n'y a plus de limite. Fait que là, faut que tu replaces tout le monde, faut que tu remettes tous les billets en vente. On s'attendait à ce qu'il y ait des trous, ça on l'a dit. Tout de même, hier, il y avait 16095 billets vendus, mais il y avait pas 16095 personnes dans les estrades. Fait que ça veut dire qu'il y en a qui avaient des billets
qui sont juste pas allés,
qui ont dit, bon, ben moi, je ne vais pas là. Puis là, ben ils ont peut-être offert aux voisins ou à mon oncle, à leur chum. Puis le chum a fait, Canadien, pas tout le temps, moi, je ne vais pas là non plus.
Hey, après
fait
quatre matchs.
Ils n'ont pas été capables. Ben c'est crime. Je reviens pas. C'est l'équipe finaliste de la Coupe Stanley. Puis on va pas. Tu sais, je l'ai mis sur Twitter hier. Je ne comprends pas. Après le match, tu peux te dire, on n'aurait pas dû y aller. Mais avant, tu peux pas dire ça. On y aurait pu jouer une performance extraordinaire. Bon, je l'ai mis sur les médias sociaux. Puis il y a des gens qui m'ont donné toutes sortes de raisons. On a perdu un peu l'habitude.
C'est vrai.
On est habitué maintenant de regarder ça de chez nous. Le fait qu'il y ait moins de monde à Montréal, tu sais, maintenant, souvent, tu fais du télétravail. Fait que t'es plus dans la tour à bureau qui est à côté du Centre Bell. Tu te fais offrir des billets, tu fais « Ouais, je sais pas, là, faut que je parte de Mont-Saint-Hilaire un mardi soir pour aller voir la game. » Tu sais, c'est moins tentant que quand tu fais « Hey, je finis de travailler à 5 heures, on va aller manger puis on va aller au match après. » Fait que ça, je peux comprendre que ça peut jouer, mais il y a un manque d'intérêt déjà de la part de la population. Tout ça est bien inquiétant. Si j'étais Jeff Molson ce matin, je me gratterais les cheveux, ça c'est sûr et certain.
Au moins, selon Patrick Roy, ils ne se sont pas rencontrés.
Ouais, selon Patrick Roy. Puis si ça n'a pas été fait, ça va peut-être se faire plus vite qu'on pense. Donc, il est revenu hier, là, parce qu'évidemment, il coach ses remparts. Fait qu'il y a des points de presse à tous les jours. Il est revenu sur ce qui avait été lancé, là, comme quoi il aurait rencontré Jeff Molson deux fois au Hilton. Il en a blagué. Il dit, c'est sûr, je serais pas allé au Hilton, je serais allé au Capitole. Fait qu'il a lancé ça comme ça. Puis après ça, il a dit, honnêtement, ça vaut même pas la peine qu'on parle de ça. Il y a pas d'histoire. Il s'est rien passé. Je l'ai pas rencontré. Ça veut pas dire qu'il serait pas intéressé. Ça veut pas dire qu'il regarde pas ça du coin de l'œil en se disant, je pourrais prendre le poste à Montréal. Mais cette rumeur-là a été démentie hier par Patrick Roy.
Puis Kotkaniemi qui a parlé aux médias qui n'en veut pas aux Canadiens.
Ouais, son discours a changé. Parce que quand il a fait le transfert du côté de la Caroline, il a un peu dit qu'il avait été mal développé, qu'il n'avait pas son temps de jeu ici à Montréal, qu'il était dû pour un changement d'air. Mais là, hier, c'est pas ce qu'il a dit en point de presse. D'ailleurs, c'est pas un point de presse devant journaliste. On l'a caché un peu. On a fait ça en web conférence. Donc, qui en veut pas aux Canadiens. Il a dit ce qu'il avait à faire, qu'il a fait ce qu'il avait à faire pour ses proches. Puis ça, on peut pas y en vouloir, là, dans le sens où lui a assuré son avenir. Il y a une équipe qui a proposé 6 millions de dollars garantis pour cette année et on va être obligé d'y offrir le même montant l'année prochaine. Fait que lui, il a sauté là-dessus. Puis, tu sais, ça, je pense qu'on peut, tu sais, on peut être fâché après, mais on se ferait proposer ça, on ferait toute la même chose, là. Le Canadien, il offrait 2, les Hurricanes, il offre 6. Y a-t-il quelqu'un qui aurait pas pris ça? La réponse, c'est non. On lui a demandé s'il y a des huées au Centre Bell, tu vas réagir comment? Il a dit, ben, ils ont le droit. Moi, j'ai fait ce que je pensais bien pour moi, pour mon avenir, pour ma famille, etc. Si les autres veulent me huer, ils ont le droit. Et, ben, écoute, Kotkaniemi, ça va pas mieux. Remarquez bien que le Canadien de Montréal, même s'il vaut 6 millions de dollars, jusqu'à maintenant, il a joué 12 et 11 minutes dans les deux matchs des Hurricanes. Il n'y a pas de points et il est moins 1.
Ouais. Un petit mot sur les résultats de baseball et de hockey ailleurs dans la ligue.
Ouais, ben ailleurs dans la ligue là, des équipes qui vont être en compétition pour le Canadien d'ici la fin de l'année. Les Sabres ont gagné 5-2, les Panthers 4-1 contre Tampa Bay, les Devils ont gagné, les Islanders et les Red Wings aussi. Et du côté du baseball, les Dodgers sont revenus dans la série avec une victoire de 6-3 hier contre les Braves, donc c'est 2-1 dans le 4-7 là pour les Braves présentement. Et les Astros sont revenus de l'arrière hier pour gagner finalement 9-2 contre les Red Sox. La série est égale 2-2.
Merci Jean-François.
À demain.
Le commentaire de Michel Girard. Une vision des finances pas comme les autres.
Salut Michel.
Bonjour Philippe Vincent.
Alors, le discours de François Legault, tu l'as analysé hier, son discours d'ouverture, et t'en retiens une chose principale, c'est que ça va coûter cher.
Écoute, ça va aller de soi, mais j'ai hâte de voir cher, mais à quelle hauteur.
Ouais.
Et c'est ce qu'on va sûrement découvrir lors de la mise à jour prochaine, là. La mise à jour économique de Éric Girard, le ministre des Finances. C'est évident, écoute, avec toutes les mesures annoncées hier, il faut s'attendre à une méchante beurrée. Là. Maintenant, c'est sûr que, bon, écoute, on est à moins de 12 mois là, des prochaines élections. Moi, j'ai l'impression, bien entendu, que le gros de la facture des nouvelles mesures caquistes annoncées hier par François Legault, ça va être refilé là, dans les prochains exercices financiers. Dans le cadre d'un second mandat à François Legault. Évidemment, s'il est réélu, mais mettons que les sondages lui donnent une certaine avance. En tout cas, c'est tout un train de mesures. Écoute, un discours qui sème plein d'espoir, ça j'en doute pas, qui vise à repéper le Québec, c'est le moins que l'on puisse dire, et puis qui permettrait, si on applique toutes les mesures annoncées hier, à faire du Québec de plus en plus, à nous permettre de devenir de plus en plus maître chez nous. Écoute, d'ailleurs, je me disais en l'écoutant, il y a un pas de plus, puis il va nous annoncer la séparation du Québec hier. Ben non, mais c'est vrai. Écoute, c'était vraiment très, très nationaliste comme discours. Or, bon, tu sais, dans les mesures, il se lance, bon, il veut se lancer dans une vaste décentralisation du réseau de la santé, bon, vers les régions et les sous-régions de la province. Bon, ça, il faut dire que, regarde, le problème de la, du système de santé, c'est qu'on ne sait plus par quel bout le prendre. Je pense qu'à chaque gouvernement, il y a toujours une réforme. Chaque gouvernement qui arrive au Québec nous annonce une réforme. On ne sait pas par quel bout le prendre. Bon, moi, en tout cas, là, cette fois-ci, on se lancerait dans une décentralisation là, vers les régions. Ce qui m'a frappé hier, c'est quand il a dit qu'entre autres, bon, évidemment, il trouvait que le système de santé actuel est dysfonctionnel en raison du fait que 40% des employés travaillent à temps partiel dans le système de la santé. Mais écoute, c'est énorme! Alors, et c'est... j'imagine ce qu'il essaie d'entendre par ça, en soulignant cela, c'est que c'est il est là, là entre autres... C'est vraiment ça qui fait en sorte que c'est difficile d'avoir un système organisé et très efficace. Donc, on veut corriger cette situation-là. Et ce qui m'a également frappé hier, je ne sais pas si toi, ça t'a frappé, c'est que quand il a fait allusion à ces négociations qui s'éternisent avec les médecins...
Ouais, les omnipraticiens,
il
dit...
On a senti qu'il en était tanné. Hein?
Ouais.
Il a rajouté, s'il le faut, dit-il, on ne va pas hésiter à imposer une conclusion. Je pense qu'il était écœuré. Là, lui, là, des négociations là, qui traînent en longueur puis qu'on ne règle pas le problème. Donc, c'est vrai, c'est quand même effrayant de ce côté-là. Bon, dans ces gros chantiers, il propose un ministère de la cybersécurité et du numérique. Alors, il veut s'attaquer à tout ce qui est données et l'utilisation des technologies numériques. Ça, je suis bien d'accord. Alors, en autant que Desjardins ne soit pas nommé responsable de ce dossier-là.
Oui, il y en a une gang qui vont avoir de la misère. On a eu de la misère avec le code QR là, pour le passeport vaccinal. Ben oui. Là, fait que...
Effectivement. Bon, bien sûr, c'est une bonne nouvelle, le fait qu'il se lance dans une grande offensive pour créer 37 000 places additionnelles dans les services de garde. Là, il faut dire qu'il va avoir l'argent parce que entre nous, le 6 milliards qu'il a arraché à Justin Trudeau là, dans le cadre du plan du nouveau programme pan-canadien des services de garde à 10$ par jour. Bon, écoute, il va recevoir 6 milliards. J'imagine qu'il y aura une tranche qui va aller pour créer ces 37 000 places-là qui sont urgemment à régler. Au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, bon, ben écoute, c'est sûr que j'ai trouvé intéressant là son programme là pour trouver 100 000 travailleurs qualifiés, pour former 100 000 travailleurs qualifiés, visant notamment les secteurs important, névralgique au Québec, comme la comp pour permettre de régler le problème de la pénurie de main-d'œuvre dans la construction, les technologies d'information et le génie. Bon, il prévoit un blitz, évidemment, toujours chez les 69 ans pour les inciter avec des incitatifs fiscaux, j'imagine, là, à rester actifs sur le marché du travail, ce qui serait une bonne solution. Un autre message qui m'a frappé, c'est un message qui s'adressait directement au milieu des affaires. Tu sais comme moi le milieu des affaires fait de grandes pressions sur le gouvernement caquiste pour accueillir davantage d'immigrants. Oh,
ouais.
Boy, Legault lui a dit, bon, ben, écoutez bien, là, vous autres, là, ça passera pas par un os marqué de l'immigration. Et là, je le cite, la survie du français, dit-il, exige une autre approche que le modèle d'immigration du Canada anglais. Bon. Alors, manifestement, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va nous proposer.
Ouais, mais ça va être quoi la solution? Ça va être quoi la solution,
ben ouais.
Michel, c'est la pénurie de main-d'œuvre, là? Parce que hier, c'était des belles intentions, là. Mais concrètement, moi, j'ai pas entendu énormément de solutions pour résoudre ce problème-là qui touche presque tous les secteurs au Québec, là. De la santé à l'ingénierie, en passant par la restauration. Il y a ces besoins-là partout, là. Puis c'est pas juste à cause de la PCRE puis des programmes d'aide du fédéral. Il y a d'autres enjeux qui sont beaucoup plus importants. Ça monte avant la pandémie, là, la pénurie de main-d'œuvre.
Effectivement. Alors, non, hier, tout ce qu'on a appris, c'est que, bon, il va accentuer la formation professionnelle. Il va miser sur la formation, évidemment, des 100 000 travailleurs qualifiés, là, la qualification des travailleurs, mais ça règle pas le problème parce qu'on est rendu à la fin juillet, on était rendu à 221 415 personnes là, de postes vacants. Là. Alors, je le sais concrètement, là, peut-être qu'on va avoir des mesures plus concrètes là, dans le prochain budget. J'ose croire parce
on
que
souhaite.
C'est quand même ça, tu sais, ça puis la santé, là. c'est très important, mais la pénurie de main-d'œuvre, il faut régler le problème parce que ça ralentit la croissance économique du Québec. Bon, là, tu vois, comme mesure, il veut mettre l'accent, évidemment, pour créer un pôle mondial, c'est une très bonne idée, un pôle mondial dans le transport, notamment le transport électrique, ça vise autant auto, autobus, avion, dans la filière batterie, l'hydrogène vert. Or, bon, ben, écoute, on peut toujours espérer, là, puis c'est parce qu'on sait que c'est le secteur de l'avenir. Alors, grand bien nous fasse si on réussit à avoir des mesures qui vont nous permettre de prendre les devants dans ce secteur-là, là, notamment. Là. Mmh. Or, puis aussi, il a lancé un message, là. Il veut que le Québec soit plus accueillant pour permettre à un plus grand nombre de grandes entreprises de venir ici. Puis il a bien raison de dire qu'avec les grandes entreprises, les salaires, en principe, les salaires et les conditions de travail sont toujours meilleures. Fait que, ben voilà. En tout cas, bref, c'est un discours extrêmement positif. J'ai hâte de voir concrètement, financièement.
Ouais, c'est ça. Le comment, ben non, c'est ça, le comment et le combien va arriver dans la mise à jour économique.
Ben, c'est parce que c'est les montants d'argent qui va attacher à chacune de ces mesures-là qui va nous dire si c'est sérieux ou pas.
Ouais.
Si ça ne restera pas des paroles en l'air ou tout simplement des promesses électorales.
Michel, merci beaucoup.
Merci.
Salut. Cube Radio. Donc, le discours d'ouverture de François Legault a été vivement critiqué par les partis d'opposition, notamment Québec solidaire, qui disait il a fallu attendre 53 minutes avant de parler d'environnement. Pourtant, dans le discours, on a quand même annoncé des pôles mondiaux pour des batteries électriques, le recyclage de batteries, le transport par hydrogène. On a aussi annoncé la fin de la production d'hydrocarbures au Québec. Là, en fait, on a surtout dit qu'il n'y en aurait pas. On va l'interdire. Pour en parler, Patrick Bonnet, responsable de la campagne climat-énergie chez Greenpeace. Peace Canada. Monsieur Bonnet, bonjour.
Bonjour.
Première réaction à ce discours d'ouverture de François Legault, il y avait quand même de l'environnement là-dedans.
Il y avait un petit peu d'environnement qui est arrivé très tard. Vous l'avez résumé essentiellement en 30 secondes. Toutes les annonces ont été résumées. Pôle au niveau mondial de transport électrique pour autobus, train, camion, filière pour la batterie, hydrogène vert et renoncer à l'exploitation pétrolière et gazière. Mettez tout ça ensemble en termes de réduction d'émissions à court terme, ce qu'on va voir au Québec, très, très peu, alors qu'on n'est pas en voie d'atteindre nos objectifs en termes de réduction de gaz à effet de serre. La cible pour 2030, le plan qu'il y a sur la table, le gouvernement, ça permet seulement d'atteindre 42 % de cette cible-là. Et cette cible est largement insuffisante en regard de la responsabilité d'une nation riche comme le Québec. Donc, c'est certain que pour nous, oui, c'est très bien que le Québec dise « on renonce à l'exploitation pétrolière et gazière ». C'est un signal très fort. Mais concrètement, on est en urgence climatique. Vous avez vu les feux de forêt, les sécheresses, canicules meurtrières. Ça va prendre beaucoup plus que ça. Et malheureusement, en termes de priorité, ben, l'environnement est pas très prioritaire.
En même temps, François Legault dit, si on regarde les émissions de GES per capita, le Québec est parmi les meilleurs en Amérique du Nord.
Ben, les émissions de gaz à effet de serre au Québec ne diminue pas. Faut regarder les bilans des dernières années. Là, les émissions stagnent, voire augmentent même, alors qu'elles devraient réduire drastiquement. Le Québec a un meilleur bilan, en effet, qui est largement dû à la réalité géographique qu'on a et des décisions historiques. On a décidé de faire de l'hydroélectricité, ce qui fait que, en termes de production d'énergie au Québec, on ne produit pas d'électricité avec des combustibles fossiles. C'est 100% énergie renouvelable ou presque. Ce qui fait qu'on a un bon bilan. Mais regardez ce qui se passe au niveau de la consommation d'hydrocarbures, au niveau, entre autres, des transports, au niveau des bâtiments, au niveau des industries. Ben, ça va à la hausse, alors que toutes les études, toutes les agences internationales spécialisées nous disent qu'il faut, au contraire, qu'on coupe presque de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 10 ans, d'ici 2030. Et là, il n'y a pas de plan sur la table de la part du Québec. Donc, ça reste, oui, une certaine chance d'avoir de l'hydroélectricité, mais il faut aller beaucoup plus loin et changer les secteurs de la société. Et hier, ce n'était pas du tout ce qui a été proposé par le gouvernement. C'était quelques mesures qui peuvent être intéressantes, en effet, en fait, qui sont intéressantes, entre autres, de renoncer à l'exploitation d'hydrocarbures. Mais le fait est qu'on n'en produit pas actuellement d'hydrocarbures au Québec. Donc, il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre liées à la production pétrolière ou gazière. Donc, si vous renoncez, si le gouvernement renonce à ça, ben dans les faits, ça réduit de zéro les émissions. Ça l'empêche des émissions potentielles. C'est un signal très fort. C'est très bien. Le gouvernement se positionne comme leader, premier État en Amérique du Nord à interdire l'exploitation pétrolière et gazière. Mais là, face à l'urgence climatique, ça prend d'autres choses que juste rajouter un petit peu de sel dans la soupe.
Puis on va faire quoi avec ces compagnies-là qui avaient des permis d'exploration, qui ont investi de l'argent pour trouver ces hydrocarbures-là, pour les chercher, qui attendaient et qui se font dire non, oubliez ça, on peut pas ne pas les compenser. Là. Il y a eu de l'argent qui a été dépensé.
Écoutez, ça a été fait, entre autres, au niveau de l'exploitation pétrolière dans le Saint-Laurent. Il y a des permis qui ont été retirés sans indemnisation. Au niveau légal, plusieurs instances, dont le Centre québécois du droit de l'environnement, dit clairement que c'est possible pour le gouvernement de retirer ces permis-là sans avoir des compensations. Peut-être de minimes compensations qui pourraient arriver liées, entre autres, à certains investissements, mais surtout pas en fonction de futurs profits que les entreprises n'auraient pas fait. Comprenez que les entreprises pétrolières et gazières savent depuis des décennies que les changements climatiques existent. En fait, on alimenté les climato-sceptiques, on continué à jeter le doute sur les changements climatiques et n'ont pas voulu réduire leurs émissions. Donc, c'est une surprise pour personne dans le milieu pétrolier et gazier qu'il faut mettre un frein à l'exploitation pétrolière et gazière, ne pas faire d'expansion. Et vous avez même la plus grande agence internationale, l'Agence internationale de l'énergie. C'est la sommité au niveau mondial, citée par les financiers, citée par tous les gouvernements, qui dit très clairement dans ses nouveaux rapports que on ne peut pas se permettre de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Si on veut respecter l'accord de Paris, si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, éviter une augmentation des événements extrêmes, feux de forêt, inondations, sécheresses, etc. Non, donc c'est pas la science, elle est très très claire et même les instances internationales les plus reconnues disent qu'on peut pas en faire de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Donc il y a un dossier, un cas très fort pour le gouvernement pour dire non, désolé, il n'y aura pas de compensation majeure pour ce que vous êtes en train de réclamer, des profits qui n'arriveront pas, parce que la réalité est qu'on ne peut pas se permettre, comme société, d'aller là-dedans, de s'enfoncer dans les hydrocarbures, d'ouvrir des nouvelles filières, alors que tous les indicateurs sont au rouge sur le tableau de bord, que l'ONU nous dit que c'est code rouge pour l'humanité, qu'on fait face à une crise climatique. Donc, pour nous, c'est très clair que le gouvernement ne devrait pas aller là au niveau de commencer à compenser les entreprises.
Patrick Bonin, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne Salut.
Journée. Cube Radio. Pour parler à Philippe-Vincent Foisy, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346, 187-CUBE Radio. 187-CUBE Radio.
Cube Radio.
Benoît Dutrisac.
Demandez-nous qui gère le système.
Mario Dumont.
Le point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions...
La rencontre.
Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence.
Excuse-moi, je t'arrête là.
Non, pas toi, là.
Ça ne les regarde pas.
Mais je comprends sa crainte.
C'est pour les imbéciles.
La rencontre Dutrisac-Dumont.
Mario Benoît, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Commençons avec le discours... électoral, on pourrait dire, le discours d'ouverture de François Legault là, à un an de la prochaine élection pour relancer cette nouvelle session parlementaire. Mario, c'est du marketing, comme le dit l'opposition, ou il y a quelque chose de plus profond là-dedans, une vision du premier ministre pour la suite?
Il y a un volet marketing, aucun doute, mais il y a du contenu. Est-ce que c'est une vision? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est une vision d'ensemble? Moi, ce qui m'a quand même surpris, c'est qu'il y a une liste d'épicerie, là. Il y a une liste d'actions très concrètes, là, mesurables, avec les médecins de famille, avec les places, les 37 000 places en garderie, le cours d'éducation et culture religieuse. Prends la liste, là, puis tu peux te mettre des petites cases à côté, puis tu vas pouvoir cocher dans un an. Donc, le gouvernement s'est vraiment donné un programme, une liste de choses à faire et à ne pas faire, là, mais une liste de choses pour la prochaine année. Est-ce que c'est une vision d'ensemble? Tu sais, quand on parle... Du changement, bon, on comprend qu'il y a un changement en santé, mais on comprend en même temps qu'on veut pas y aller dans la réforme de l'État tous azimuts. Donc on reste prudent, on reste conscient que même changer la santé, ben je l'écris ce matin, là, même changer la santé, c'est tout un aria. Les forces de l'immobilisme au Québec sont incroyables, tu sais, forces d'immobilisme dans les médias, dans les syndicats, dans la bureaucratie. Essayer de changer ça, c'est vraiment énorme. Mais c'est clairement, pour moi, c'est clairement plus qu'un exercice marketing. Puis là, il reste à accomplir. Je veux dire, c'est une chose, tu le mets dans ton discours inaugural, mais après ça, faut que tu le fasses. C'est une pression que le gouvernement se met parce que tes engagements d'il y a 4 ans, bon, 4 ans plus tard, tu peux dire, ah, j'ai pas respecté tous mes engagements parce qu'il y a eu une pandémie, puis ils sont comme vieux, là. Mais sur un an, les engagements que François Legault reprend hier, ben, s'il les a pas livrés l'été prochain, l'automne prochain, à l'élection, on va s'en rendre compte.
Ou s'il est pas en train de le faire, là.
Ouais.
Benoît.
Écoute, un peu plus, là.
Et je m'attendais à ce que François Legault se mette à chanter « Nous autres, on est pépés, pépés, eux autres sont pas pépés. » Puis que toute sa gang se mette à chanter à l'unisson derrière lui.
« Nous autres, on est pépés. » Tu aimes les discours, tape tes mains.
Mais écoute, c'est un peu ça. Puis en même temps, tu sais, que l'opposition dit « C'est du marketing », c'est-tu une critique vide à ton goût?
Oui.
Ça, qu'est-ce que ça veut dire du marketing? Comme vous autres, qu'est-ce que le PQ a proposé ces temps-ci? Tu sais, avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui appuie les syndicats, qui veulent pas être vaccinés. Vous avez... Qu'est-ce que le Parti libéral a à proposer ces temps-ci, après avoir centralisé le système de santé grâce à Gaétan Barrette, qu'il faut maintenant décentraliser, comme dit Mario, good luck, bonne chance.
Je recevais des textos du Parti libéral qui disaient « Hey, les 37 000 places, on l'a déjà dit. Hey, ben l'interdiction oui, des hydrocarbures, on l'a déjà proposé. »
Mais on l'a pas fait.
Ouais, mais ils l'ont fait dans la dernière année.
Mais ils l'ont proposé dans la dernière année.
Oui, mais ils l'ont pas fait quand ils étaient au pouvoir. Tu sais, t'as une même gang. Madame Andelade, t'es vice-première ministre. Elle tombe pas du ciel non plus. Là, il y a l'économie verte. Moi, j'étais content d'entendre ça. Je me dis ça, c'est un projet de société. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu un projet de société. Là, nous, au Québec, là, on va développer l'énergie verte. Pis, ouais. Bon, mais c'est une bonne idée. Est-ce qu'il va le réaliser? Je ne sais pas. Mais au moins, l'idée est sur la table.
Mais la CAQ, c'est l'économie verte sans douleur.
C'est ça.
Ouais, je ne sais pas que je compte ça, mais les autres parties, c'est le virage vert avec douleur.
Oui, oui. Ben,
ils nous disent pas nécessairement les douleurs, là, mais c'est ça.
Une couple d'affaires, par exemple, là, le cours d'éthique et culture religieuse.
J'ai pensé à toi, je me suis dit que
j'avais
l'air
de t'entendre là-dessus.
Hein. Hey, bravo! Il était sacrément huitant. Il était temps. Je vous rappelle que Mme Dutrisac, qui a fait de la suppléance, en première année, on présentait le livre aux enfants de première année comme si l'Arche de Noé avait vraiment existé. Première page. Moi, je l'ai vu, ce livre-là. Elle l'a rapporté à la maison. Ben, elle dit là, t'es obligé d'enseigner ça? Qui a vraiment ramassé un couple de chaque animal pendant le déluge. Puis, t'es-tu sérieux? Ben, c'était ça. Fait que, comme on dit, bon débarras. Les soins à domicile, là, on peut-tu ce matin, je sais pas s'ils écoutent, là, mais ils peuvent-tu s'attarder au CLSC? On peut-tu faire quelque chose avec les CLSC, les sacrements de CLSC, où si t'as pas le bon code postal, t'as pas de service, où il y a jamais personne, il y a jamais de médecin, ça ferme à 2 heures l'après-midi, puis tout ce que ça fait, ça envoie des infirmières à la maison des gens, des femmes qui viennent d'accoucher.
Mais je pense que ça ferme à 4, c'est juste qu'entre 2 et 4, il faut qu'ils fassent des rapports papier de ce qui a été
fait. Oui, c'est ça.
En journée.
Puis il faut qu'ils fassent semblant de répondre au téléphone. Les CLSC, là, ça, là, c'est à revoir. Là,
mais c'est peut-être de donner plus de services, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans des CLSC qui sont dévoués, des infirmières.
Ben non, ils ne sont pas dévoués, ils se pognent le cul. Ils ne font rien de leur journée, CLSC, ça ne sert à rien.
Ben, il y a des campagnes de vaccination.
Je vous fais regarder, là, vous mordez à l'hameçon. Là, vous êtes trop facile pour moi ce matin. Là, c'est une auditoire.
Allez, on va prendre un café, excusez.
Oui, ça. La levée d'urgence sanitaire, mais ça, c'est après la vaccination des 5 à 11 ans. Bonne chance. Si vous pensez qu'on a eu de la misère à convaincre les gens, là, c'est correct, là, on a un bon taux de vaccination. Mais les 5 à 11 ans, les parents, je pense qu'il y a une certaine hésitation. Je ne suis pas sûr que ce soit
début 2022. Oui, il y a une hésitation,
mettons que dans les écoles... Là, est-ce que c'est 70, 80, 90?
Mais mettons que dans les écoles, présentement, tu avais 70-75 % d'enfants vaccinés, ça changerait tout le portrait épidémiologique au Québec. Certains. La quatrième vague n'aurait pas été la même. Là. Déjà qu'elle n'a pas été si épouvantable, elle n'a pas été terrible, mais ça aurait été encore bien moins pire si les enfants étaient vaccinés, même à 70-75 %.
Puis moi, je pense qu'il n'y aurait pas eu de pandémie si les gens dans les CLSC travaillaient un peu, mais bon, c'est une joke. Arrêtez, sacrément. Là, dernière affaire, là, la décentralisation du système de santé. Ça veut dire quoi? Là? Ça veut dire défaire tout ce que Barrette a mis en place. Ça veut dire une nouvelle réforme, encore des bureaucrates à l'air climatisé qui vont se demander pourquoi le système de santé va pas mieux. Là, est-ce qu'on s'embarque encore là-dedans ou on travaille avec ce qu'on a? Moi, j'imagine les gens dans le système de santé là, qui entendent ça et disent hey, « c'est pas vrai, là. C'est comme dans le monde de l'éducation, pas une autre réforme, là. Pas parce que t'as un nouveau gouvernement, on va travailler différemment, puis c'est il est moins l'ami des médecins que Gaétan Barrette, Philippe Couillard, puis toute la gang. » Ça, c'est ça, j'étais un peu découragé quand j'ai entendu ça.
Mais il y en a à qui ça a dû faire quand même plaisir là, d'entendre que ça allait être un peu décentralisé, que ça allait être un peu moins bureaucratique. Là. Parce qu'il y a du monde dans le réseau qui disait « la réforme Barrette, on l'a dans les dents en Moses ».
Ouais. Ouais, mais la réforme Barrette nous a amené des groupes de médecine familiale, nous a obligé les médecins de famille à donner des services, à aller ouvrir des cliniques.
Les GMF, c'est Philippe Couillard quand il était ministre de la Santé, là. Si je ne m'abuse, qui a développé ça, c'est pas Barrette.
Mais c'est, mais Barrette a obligé...
L'a poussé, là.
Les médecins à donner des services, à ouvrir les cliniques, à pas les ouvrir jusqu'à 5 heures le soir. Oui,
effectivement, ça c'est vrai.
Fait que ça,
mais là,
une
les
bonne
médecins,
affaire.
Il y avait une petite balle courbe quand
les
même.
Amis,
quoi,
médecins de
les
famille,
amis praticiens qui prennent pas assez de patients, là, des patients qui cherchent un médecin de famille, on l'a pas vraiment vu venir celle-là, mais c'est presque un mot couvert des menaces là, que le discours leur a formulé en disant, ben, c'est François Legault dit, ben moi, mon premier choix, c'est toujours d'arriver à une entente. Mais si j'ai pas d'entente qui permet aux gens d'avoir un médecin de famille, on n'hésitera pas à prendre les grands moyens.
En passant, Mario, je pensais à toi hier, là, je sors de la nouvelle, là, mais on annonce une grève dans les entrepôts de la SAQ. Je me suis dit, quand tu disais, si on en donne à une partie de la fonction publique, là, tout le monde va vouloir une part de du gâteau. C'est ce qui s'en vient là.
Oui, sauf que les garderies, pis ça, c'est moins grave, mais là, la SAQ, là, c'est plus drôle du tout.
Là, niaise-moi
pas. Ça, c'est un service essentiel.
Voilà.
Bon, y a-t-il d'autres choses à dire là-dessus ou on attend de voir le combien, puis le comment, puis le quand, puis les priorités avec
bonne chance.
Projet de loi mammouth qui va s'en venir de Christian Dubé. Garderie, ça arrive bientôt avec Mathieu Lacombe, surtout la mise à jour économique qui va nous donner une bonne idée d'où sont les priorités avec
sinon,
des chiffres.
Ça reste, le mot le dit, là, ça reste un discours. On l'analyse de fond en comble, mais c'est un discours important, mais c'est un discours, à un moment donné, il faut juger les résultats aussi, là. Un bien beau discours, monsieur.
Est-ce qu'on reste encore un petit peu dans la politique, dans le vaccin, avec la Chambre des communes qui va obliger ses députés à être vaccinés, tant pis pour les conservateurs qui ne le sont pas? Là.
Mais pas mais si moi, je me dis que des raisons religieuses, par exemple.
Ouais. Mais Ren O'Toole, il doit quand même regretter de ne pas avoir réglé ça, d'avoir pas une... parce que dans le fond, il n'a pas mis le pied à terre. Il a traîné ça, là. Toute la campagne électorale, lui-là, il a essayé de faire du jogging, tu comprends, avec un petit boulet accroché au pied. Pas quelque chose d'épouvantable qui l'empêchait de faire campagne, mais il a traîné ça là, tout le long. Il a essayé de détacher, là, que tout son monde n'était pas vacciné, puis tout ça. Puis finalement, ils pourront pas siéger, là, tu dis. Hey, monsieur. Puis là, ils pourront pas siéger. De toute façon, on a déjà fait des farces avec ça. Ils pourront pas se rendre parce qu'ils peuvent pas prendre le train, ils peuvent pas prendre l'avion. Puis la plupart, c'est quelques-uns. Ça me paraît, moi, être une poignée, là. Je sais pas, je pense que ça tient moins que les doigts de la main. Mais là, ils pourront même plus siéger. Ils pourront même pas rentrer dans la Chambre des communes. Donc, ils pourront pas se rendre. Ils vont se rendre en voiture à cheval, puis ils pourront pas rentrer dans la Chambre des communes. Fait que c'est vraiment, là. Moi, si je suis Ren O'Toole, c'est sûr que je me dis, hey, j'aurais-tu dû régler ça le jour 1, puis dire « faut être vacciné pour être candidat, point à la ligne. »
Ouais.
Benoît, rien à t'ajouter
là-dessus. Non.
Parfait.
Non, moi, je reviens avec, tu sais, les exemptions, là, si tu as des problèmes de santé, ça, je comprends ça, mais exemption pour des raisons religieuses, ça, encore une fois, qu'est-ce que tu veux, ça me rentre pas dans la tête, je comprends pas le lien entre un virus puis un lutin. Je comprends pas ça. Fait que, bref, j'ai rien d'autre à dire.
Changeons de domaine un peu. Y a quelqu'un qui est un jeune ado de 16 ans, décédé, poignardé. Et là, il y a des individus qui se moquent de lui sur les réseaux sociaux en utilisant la musique qu'il faisait, Benoît.
Ouais. Puis là, on cherche des réponses. J'ai vu le reportage hier, là, j'ai stoppé à TVA Nouvelle. Et là, tout le monde disait, ben, tu sais, Sue Montgomery dit, on a besoin d'installations pour les jeunes, des emplois pour les jeunes, des choses à faire après l'école. Ben, je suis désolé, Sue, mais c'est pas la majorité des jeunes qui pognent un couteau puis qui poignardent un autre jeune. C'est un jeune de gang de rue, c'est un jeune qui glorifie la violence, qui glorifie les gangs, sociopathe, malade, qui glorifie la culture du gun puis des gangs. C'est pas... Ça prend pas une compétition de Scrabble là à ces jeunes-là. Ça leur prend d'abord des parents qui savent ce qui se passe avec leurs ados et qui sont leurs amis, mettons. Où est-ce qu'ils prennent leur argent? Comment se fait qu'ils se promènent avec du bling-bling quand ils travaillent pas? Des valeurs un peu, là, c'est des valeurs de psychopathe. Là, on tue quelqu'un, on se moque de sa mort, on se moque de sa culture, on se moque de sa famille. Aucune décence. Puis là, tout ce qu'on trouve à dire, ben, faudrait leur permettre de faire de la peinture à numéro, faudrait... Moi, je pense qu'il faudrait avoir des conséquences. Moi, je voudrais les ramener à l'ordre.
Ouais, encore faudrait faut-il
leur dire que la vie humaine, c'est précieux. Là.
Encore mais moi, c'est ton dernier point sur lequel j'accroche. Pour moi, là, le fait de se moquer, en fait, c'est tellement fou, tellement inhumain que on a comme peu à dire, on ne sait pas comment commenter ça, sinon que ça relève du même problème que le fait de se promener à 16-17 ans avec un fusil puis d'être prêt à tirer. C'est que t'as perdu tout repère quant à la valeur de la vie humaine, là. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est parce que t'as trop joué à des jeux vidéo où tu penses que t'as 8 vies et puis une fois que t'es mort, tu reprends, là, tu recommences au tableau numéro 1? Est-ce que
c'est... Ou c'est mais... ça, mais c'est juste ça tes modèles aussi dans ta communauté, là.
Ouais, mais c'est la culture du gun, aussi la désensibilisation de tes jeux vidéo, c'est réel, tu sais, d'être devant, mais encore là, tu sais, quand les parents disent, il me semble qu'il y avait des bons amis, il y avait pas de problème, c'est parce que nous autres, comme parents, là, on n'a pas le choix, on a des enfants, personne ne nous demande de mettre des enfants au monde, puis à un moment donné, il faut faire le suivi, puis je sais que c'est pas simple, je sais que c'est pas facile, j'en ai eu des ados, puis je vais en avoir d'autres ados, là. Je sais que c'est compliqué. Mais là, on vit dans une culture où vraiment la vie humaine semble pas avoir d'importance. C'est le Squid Game, là. C'est le jeu du calmar. C'est pas vrai, là. C'est pas réel. Et là, t'as des jeunes avec une cagoule qui se moquent d'un gars de 16 ans qui est mort. Ça me dépasse. Ça dépasse l'entendement. Fait que là, faut arrêter avec, faudrait avoir des activités parascolaires, peut-être les amener à l'opéra de temps en temps. Je pense que non, là. Là, faut les ramener à l'ordre, là, sérieusement. Et là, la communauté blâme la police. Mais qu'est-ce que tu veux que la police fasse? Tant qu'il n'a pas commis un crime, comment tu veux que la police s'implique là-dedans? Fait que tu as les groupes communautaires. Il me semble qu'il y a assez d'argent dans les groupes communautaires. Il me semble qu'on en met. On en demande puis on en met. Fait que c'est où le problème d'avoir des jeunes comme ça, sans empathie, sans compassion? C'est moi, ça dépasse l'entendement.
Un mot sur... Vas-y, Mario.
C'est aussi tout le phénomène qui crée le sentiment d'insécurité grandissant à Montréal, là, parce que tu vois de plus en plus de gens qui sont des jusqu'au boutistes, là, très, très jeunes, puis ben on est dans un gang, puis si ça fait pas, ben on va le tuer. Pis, donc dans ce cas-ci, c'était pas par arme à feu, mais dans beaucoup de cas, c'est par arme à feu. C'est-à-dire, le sentiment de sécurité à Montréal, depuis un an ou deux, a pris toute une débarque.
Tu m'amènes ailleurs, là, Mario aussi, là, Philippe-Vincent, le rapport à l'autorité. Le rapport à l'autorité qui est perdu dans les classes, là, parce que là, la prof, là, en général, la prof peut à peu près plus intervenir. Là, il y a toutes sortes de programmes, puis de... Mais la prof comme telle, là, qui est exaspérée, qui se fait baver, qui se fait écœurer, puis au secondaire, il n'y en a pas de conséquences. Parce que rendu à l'école publique, tu peux pas le sortir. Il faut vraiment qu'il commette une faute grave, tu sais, pour se faire sortir de l'école. Fait que, c'est quoi les conséquences? Il n'y a plus de retenue. Il y a plus, tu sais, fait que les jeunes qui écœurent les profs, qui ont aucun respect pour l'autorité, s'ils arrivent à la maison et que les parents se font pas respecter, t'as aucun respect pour l'autorité. Fait que je pense que là, c'est en train de devenir un sérieux problème. Ça l'a toujours été, mais là, je trouve que la culture des gangs puis du gun est en train d'amplifier le problème du rapport à l'autorité. Je veux pas une société de disciplinés, puis de, tu sais, de soldats, puis de scouts, mais il y a quelque chose entre les deux, là, qui devrait être viable.
En te rappelant gentiment que le mot autorité est disparu depuis la réforme.
C'est vrai?
Ben oui.
Ah ouais.
Mais non, nulle part, dans la réforme, nulle part, tu peux parler de l'autorité de l'enseignant dans une classe, ça n'existe plus. T'es vieux, non, Benoît. T'es vieux.
Je suis très, très vieux. Je suis très vieux.
Mais je niaise pas, là.
Je vis avec. Ouais.
Parlons de Michel Nadeau, qui est décédé, un des bâtisseurs du Québec Inc. On l'a beaucoup entendu parler de gouvernance, d'économie. C'était l'une des voix les plus connues dans ce dossier-là, dans ce domaine-là. Benoît, il laisse quand même un trou, là.
Écoutez, moi, je l'ai croisé, je l'ai interviewé, Michel Nadeau. D'abord, j'étais étonné de son décès. Je lui ai parlé il y a trois semaines à peu près, tu sais, sur la caisse de dépôt. Puis,
non, mais t'es sûrement dans les derniers, là, parce que peu après, il était plus disponible pour des entrevues, il était trop malade. Ouais.
Non, c'est ça, mais j'étais étonné. C'est ça, je lui ai parlé récemment, puis il était toujours intéressant, puis moi, il m'instruisait sur la façon de procéder à la caisse de dépôt avec des réflexions pertinentes. Je voulais juste souligner son décès, Michel Nadeau, là, qui a quand même contribué à la compréhension de ce que doit être la caisse de dépôt à sa façon.
Oui, la caisse, mais l'économie du Québec, moi, je l'ai reçu plein de fois. On partageait une connaissance et une passion commune. Là. Sa connaissance étant plus grande que la mienne, mais quand même sur l'économie du Québec, les entreprises, les forces économiques de telle région, puis les entreprises qui sont fusionnées au fil des années, puis comment on... T'sais, c'est quelqu'un qui connaissait vraiment... Il y a une histoire économique au Québec, là, dans tous les secteurs. Comment ça se fait qu'on est rendu avec ça, les forestières, mais ça, c'est la fusion d'une telle qui est d'après ça Bowater, qui est devenue la console. Il y a une histoire. Et Michel, c'était incroyable. C'était une encyclopédie. Il connaissait... depuis des années, il aimait le Québec Inc., il aimait les entreprises québécoises et celles qui ont vu grandir, là, qui ont fait grandir le Québec, qui ont grandi dans le Québec. Et c'était un vrai, à la fois compétent, mais surtout passionné là, de l'économie du Québec, attristé de ce qui marchait pas, des échecs, des bombardiers. Mais c'est ce que j'aimais, c'est qu'à la fois c'était un vulgarisateur, mais pas juste quelqu'un qui en parlait dans une pédagogie là, qui était engagé, qu'on sentait préoccupé par qu'est-ce qui crée de la richesse au Québec, qu'est-ce qui crée des bons emplois au Québec, autant souffrant des échecs que fier des réussites. Et donc, c'est un personnage important de l'économie du Québec qui nous quitte vraiment.
Messieurs, merci beaucoup.
Salut.
Salut.
Il n'a pas peur de mettre son poing sur la table. Philippe-Vincent Foisy, pour une information juste et véridique.
Cube Radio.
Il y a un nouveau documentaire maintenant disponible sur la plateforme Vrai, le tribunal populaire qui porte sur le phénomène du cancel, la culture du bannissement au Québec. Ça a été réalisé par notre collègue Geneviève Peterson, autrice, animatrice, documentariste aussi. Salut Geneviève.
Salut,
je suis Vincent. Ce documentaire-là commence avec ta chronique sur l'influenceur Élisabeth Rioux, où tu nous racontes là, la bulle que tu as eue, les critiques que tu as vécues. Et tu utilises cet événement-là pour partir une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, qui peut dire quoi, comment on peut avoir une discussion civilisée au Québec. Raconte-nous le chemin qui a été fait depuis cet événement-là pour aboutir à ce documentaire.
Ben en fait, tu l'as dit, là, j'ai fait une erreur en ondes, une erreur très grave quand je commentais une histoire qui impliquait l'influenceuse Élisabeth Rioux. Dans les semaines qui ont suivi, évidemment, là, il y a eu un tsunami de commentaires négatifs, des appels à mon cancel. Évidemment, quand je vivais cet événement-là, j'étais très bouleversée de tout ça pour plein de raisons. Mais à un moment donné, quand ça s'est calmé un peu, je me suis mise à réfléchir à ce phénomène-là, au phénomène du tribunal populaire, auquel j'ai déjà participé, hein, Philippe Vincent, pour vrai, là, c'est-à-dire étant une fille super progressiste sur les médias sociaux, tu sais, il y a eu beaucoup, depuis quelques temps, ce qu'on appelle des call-outs, là, des espèces de dénonciations sur les médias sociaux, que ce soit pour des gens qui sont victimes d'agressions sexuelles ou des gens qui ont eu des comportements problématiques, donc les personnes les dénoncent. Souvent, je prenais part à ces questions-là, non pas en dénonçant, mais j'étais très intéressée par ces questions-là. Puis évidemment, quand tu le vis de l'autre côté, ça t'amène une autre perspective. C'est pas une perspective où on dénonce absolument le tribunal populaire et où on dit ça n'a pas de bon sens. Non, moi, je me questionnais sur, OK, t'sais, à partir du moment où ça se passe, pourquoi ça se passe? Qui gagne là-dedans? Qu'est-ce qui reste ensuite? Parce que si l'objectif de ce tribunal populaire-là, c'est de faire changer les choses, de faire réfléchir les gens qui ont eu des commentaires problématiques, genre moi, est-ce que ça fonctionne vraiment? Puis c'est ça que je voulais poser comme question dans le film. Fait que mon histoire, c'est un tremplin, c'est pas un documentaire sur moi. C'est vraiment je suis allée à la rencontre de personnes qui ont vécu des cancels, à la rencontre de gens qui ont cancellé, puis aussi on couvre des histoires qui sont en lien avec des institutions. Là, je parle entre autres à des personnes de l'Université d'Ottawa, là, où on avait la prof Verouchka Lieutenant-Duval qui a été dans l'eau chaude parce qu'elle a prononcé le N-word. Mm. On a parlé de slave, on a parlé aussi à des moments où ça s'est bien passé. Le Collège d'Olthic qui a changé son nom d'équipe sportive. Donc, c'était vraiment une espèce de plongée dans cet univers-là.
Puis, on parle vraiment de la culture du bannissement, là, si on voulait l'appeler en français. Pour ce
qui... c'est dur de trouver. Ouais, c'est dur d'ailleurs trouver une traduction. T'es là. Si on va l'appeler culture du bannissement, culture de l'annulation, on a choisi culture de l'annulation.
Bon, OK, on va appeler ça culture de l'annulation de bord. On parle vraiment ici de ce qui est politique, là, entre guillemets, ou social. Là. On n'est pas dans Marie-Pierre Morin, par exemple,
non.
ou autres qui ont commis un geste déplacé, une inconduite sexuelle et qui se sont fait écarter de la scène publique. Là, on est vraiment dans, vous avez dit, par exemple, comme tu disais à l'Université d'Ottawa, le mot qui commence par N, vous avez pris une position, vous êtes fait dénoncer pour avoir mal géré une situation. Là, tu as interviewé notamment Josiane Stratton, de ton petit look, où on essaie de comprendre un peu pourquoi eux ont été critiqués aussi là, sur les réseaux sociaux. Là, tu vois, des deux côtés, là, la personne qui dénonce de ce qu'elle a vécu, mais de ce que Mme Stratis aussi a vécu. Là.
Mais ça, c'est intéressant que tu le soulignes, parce que évidemment, pour moi, d'emblée, c'était clair qu'on n'allait pas couvrir des cas où des personnes sont victimes, en guillemets, d'allégations pour des inconduites sexuelles, pour la simple et bonne raison que c'est un sujet en soi. Puis, il y a une certaine partie de moi qui comprend des gens aient envie de se tourner vers les médias sociaux pour dénoncer ces affaires-là parce qu'il y a des problèmes avec le système de justice. Maintenant que ça c'est dit, le cas des Sœurs Stratus, pour être parfaitement honnête, là, c'est les fondatrices d'un blog qui était très, très populaire. C'est des filles aussi qui ont beaucoup contribué à la culture du bannissement, de la culture de l'annulation. Puis, j'avais pas dans l'idée au début, Philippe-Vincent, de recevoir, en guillemets, leurs victimes. Dans ma tête, là, puis comme dans la tête de bien des gens, je me disais, je pensais aux conséquences sur les personnes cancellées. Je me disais, c'est épouvantable, ces filles-là ont perdu leur vie, ils ont toutes perdu leur chum, leur job. Écoute, il y a eu des menaces envers leurs enfants. Puis je me disais, bon, OK, on va leur parler. Puis c'est après avoir vu Marie-Pierre Morin, hein, tout le monde en parle, et après avoir entendu Safia Nolin sur le fait qu'elle allait refuser l'invitation parce qu'on lui avait pas donné la parole au départ, que je me suis dit, ben oui, mais je suis bien. Pourquoi c'est vrai, je pense? Pourquoi ne pas présenter les deux côtés de la médaille? Puis je regrette pas de l'avoir invité, Jessica Paquin, parce qu'elle nous explique sa démarche, puis elle nous explique aussi qu'elle a cancellé des gens. C'est lourd à porter. Elle pensait pas là, que ça allait avoir ça comme répercussion. Elle pensait pas que ces filles-là allaient recevoir des menaces de mort puis perdre leur vie. Là.
Non, mais c'est ça. Quand je regardais ton documentaire, je me disais, comme dans le cas de Slav, la première personne à avoir critiqué Slav ne disait pas « faut annuler Slav, faut censurer Slav ». Elle faisait juste critiquer le fait que les personnes noires n'avaient pas été impliquées dans la création. Et c'est un peu, la réflexion que tu amènes. Puis je l'écoutais, puis je me disais à la fin, on dirait que je ne sais plus, est-ce qu'on ne peut plus rien dire ou est-ce qu'on ne peut plus critiquer sans se faire dire qu'on veut censurer? C'est parce que des deux côtés, j'ai l'impression que on peut vraiment parler. Tout le monde peut dire un peu ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, mais des deux côtés, on essaie de sans jouer la victime, mais on sent que les deux côtés, c'est pas rose. Il n'y a pas un des deux côtés qui gagne.
Oui. Ben, sais-tu quoi? Dans le documentaire, j'ai interviewé Philippe Lamar, qui est le président d'Urbania, puis il y a eu une réflexion intéressante. Il a dit, tu sais, la cancel culture, c'est un peu le prolongement de la culture de l'algorithme sur les médias sociaux. C'est qu'à force de parler seulement aux gens qui pensent comme toi, on devient allergique aux personnes qui n'ont pas le même point de vue que nous. Ça explique en partie, je pense, ce qu'on est en train de vivre socialement. La deuxième chose, c'est que les médias sociaux, c'est un formidable outil de démocratisation de la parole, parce que c'est vrai que quand t'as pas un micro, quand t'as pas une chronique dans le journal, t'as pas grand place pour exprimer ton désaccord, pour élaborer des idées. Sauf que c'est pas nécessairement le bon lieu, les médias sociaux, pour avoir ce type de débat-là. Moi, à la fameuse phrase, on peut plus rien dire. Je dirais cette chose-ci, je dirais, on peut dire tout ce qu'on veut, mais maintenant, il faut être prêt à en subir les conséquences.
Ouais.
Les conséquences, parfois, elles sont démesurées, parce que dans la cancel culture, à un moment donné, il y a le point de départ. Là, c'est un bon exemple. Marie-Lou Craft qui écrit son article pour dire, bon, on aurait peut-être dû parler à des gens noirs. Nathalie Petrovski qui s'empare de tout ça. Ça dérape, ça devient gros, puis la bête devient contrôlable. À un moment donné, les gens envoient des insultes, menacent des gens, sans même savoir exactement pourquoi ils le font. Et c'est ça le problème, finalement, c'est que cette bête-là, le tribunal populaire, il est incontrôlable.
Puis est-ce que tu as parlé aussi à des gens des médias, à des patrons de médias, est-ce qu'on sent qu'il y a une solution ou on est plus dans le constat, puis dans l'ouverture de cette réflexion-là, de dire... Parce que il n'y a pas de solution claire encore, là, autre peut-être que l'éducation des gens, mais c'est comme un beau projet plus général de vie. Là.
Ben, c'est un peu la conclusion du film, c'est que tu sais, en ce moment, on est dans un espace social quand même relativement toxique où le dialogue est vraiment compromis. Je trouve ça dommage. J'avais pas la prétention de trouver des solutions. Moi, je voulais amener une réflexion sur nos propres comportements sur les médias sociaux. Je te l'ai dit au début, Philippe Vincent, j'ai déjà été intense sur les médias sociaux, puis un peu sans nuance et tout ça. À un moment donné, tu évolues dans la vie, tu penses, tu t'éduques, tu fais, ok, c'est peut-être que cette situation-là est pas aussi noire ou blanche que je l'aurais pensé au départ. Accepter d'entendre des gens aussi qui sont pas d'accord avec toi, qui ont des points de vue qui sont aussi légitimes que les tiens, sans être allergique à leur point de vue, ça aussi, c'est un point de départ. Mais pour les médias, tu sais, l'espèce de guéguerre entre les médias sociaux et les médias traditionnels, je te dirais que les médias traditionnels, c'est peut-être un des derniers remparts qu'on a, parce qu'il y a de la vérification de faits, parce que tu sais, souvent, dans ces mouvements-là, puis là, si je fais référence, par exemple, si on sort un peu du film, là, au mouvement qui dénonce les agressions sexuelles, tu sais, ça se passe beaucoup anonymement sur les médias sociaux, puis je le comprends, l'impulsion, là. Mais comme média, je veux dire, tu peux pas t'en aller de l'avant avec une histoire sans vérification, sans témoin. Puis en même temps, les médias jettent de l'huile sur le feu. Puis c'est une question que le film pose. À quel moment un média s'empare d'une histoire qui se passe sur les médias sociaux et en fait quelque chose qui devient nouvelle, donc qui devient plus gros et qui donne lieu finalement à un tribunal populaire ou donne du gaz finalement à ce tribunal populaire-là? Tu sais, la culture du clic, puis Catalina Brusseneau, qui est prof en com à l'UQAM, l'explique bien. Tu sais, on est dans un monde où, justement, à cause des médias sociaux, on cherche des contenus courts, on cherche des contenus qui vont faire cliquer, on cherche des contenus qui vont faire réagir. Ça fait aussi partie du problème. Puis quand tu as la grande chance d'avoir un micro, d'avoir une tribune, il faut que tu penses au pouvoir que tu as, tu sais, puis à ton rôle, justement, dans ce feu-là. Là.
Geneviève Peterson, merci beaucoup.
Merci.
Le documentaire Le Tribunal populaire est disponible sur la plateforme Vrai.
La crème des affaires publiques. Philippe Vincent Foisy. Aussi percutant que votre première gorgée de café.
Parlons du discours d'ouverture de François Legault et de cette annonce de décentraliser le système de la santé, de mettre fin aux agences privées pour les infirmières. Pour en parler, Yves Bolduc, ancien ministre de la Santé du Québec. Monsieur Bolduc, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous l'avez vécu, vous l'avez vu. Certains vont dire que quand les ministres de la Santé sont vaincus par la machine qui est le ministère de la Santé, Gaétan Barrette l'a vu. On parlait de Jean Rochon hier qui a commencé à mettre certaines réformes dont on attend toujours les effets. Quand vous avez entendu François Legault hier dire « on va décentraliser tout ça, ça va fonctionner cette fois-ci », est-ce que vous êtes sceptique ou vous êtes optimiste?
Ben, je suis réaliste, c'est-à-dire que ce réseau de la santé, c'est un très gros réseau à gérer. Il y a de la santé partout au Québec, c'est le premier employeur au Québec, et puis ça prend beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre. Et également, ça prend du financement pour être capable de faire vivre un bon réseau de la santé. Et oui, il y a eu des réformes au cours des années, il y a eu quand même des améliorations qui ont été faites. Et vous savez, on est un balancier, on passe d'un côté à gauche, on va à droite après. Et je rappelle que la CAQ était au central aussi, ils étaient d'accord avec la réforme de Gaétan Barrette quand vous écoutez leur discours. Il y avait peut-être trop de fonctionnaires, il y avait trop d'administratifs. Là, ils se sont rendus compte qu'il y a eu trop de coupures, puis il faut qu'ils reviennent en arrière, puis il faut décentraliser. Puis ils étaient d'accord également avec l'abolition des CSS à l'époque, qui était très décentralisée, pour créer une seule grosse organisation qui était l'équivalent des agences de santé. Donc, on revient en arrière parce qu'on se rend compte qu'il y a des améliorations à apporter. Et puis, ce ne sera pas parfait, mais je pense que présentement, on est au stade, il faut décentraliser, et décentraliser de façon intelligente.
Oui, parce qu'on ne veut pas revenir à ce qui ne fonctionnait pas avant, qui était déjà décentralisé. Là, on voit qu'on a trop centralisé. Est-ce que ça veut dire faire exploser ces structures-là, que sont les CI3S ou les CIU3S, pour créer de nouvelles patentes, de nouvelles machines, ou on garde ça? Mais on change la façon de la hiérarchie. Comment on peut décentraliser sans devoir passer le bulldozer là-dedans, puis refaire des structures, puis passer 3-4 ans à s'adapter aux nouvelles structures pour finalement réaliser que les nouvelles structures, c'est pas vraiment la panacée, puis ça fonctionne. C'est un peu ça qu'on veut éviter.
Ben, moi, je suis certain qu'ils ne défront pas la structure. Ils vont la garder parce que c'est une structure qui fonctionne bien. On a vu avec la vaccination, le fait de fonctionner par pôle régional, ça a eu quand même des bénéfices. Et on peut décentraliser en amenant la décision plus près des patients. Puis je vais vous donner un exemple. Quand à un moment donné, quand la réforme, on dit qu'on va couper, il y a trop d'administratifs, on a coupé les cadres. Quand M. Legault, après une année de crise, il est allé faire un tour dans un CHSLD, première question, c'est qui gère ici? Il dit, on en veut plus, on les a tout coupés. Là, il dit, on a un problème. Mais c'est justement ça, il faut remettre des gestionnaires et du personnel localement qui vont prendre leurs décisions locales puis essayer de se gérer entre eux autres plutôt que d'avoir affaire à Québec à toutes les fois qu'on a à prendre une décision ou encore au centre régional. Donc, il va y avoir une réorganisation, selon moi, mais sans changer la structure, mais donner plus de pouvoir aux gens près du terrain.
Est-ce qu'on a changé la culture de notre réseau? Je pense aux gens qui sont malades en ce moment, qui s'en vont dans les urgences parce que c'est la seule place qu'ils connaissent ou la seule place où c'est disponible pour avoir un médecin, même si ça va prendre une vingtaine d'heures. Des enfants qui ont des bronchiolites et autres, qui doivent aller dans les urgences pour avoir des antibiotiques pour des otites parce qu'ils sont incapables d'aller ailleurs, d'avoir un rendez-vous avec un médecin ailleurs. Est-ce que cette culture-là de l'hôpital, là, je voyais certaines critiques qui ont été faites il y a quand même quelques temps, où on dit cette culture-là n'a toujours pas changé. Est-ce que ça aussi, il va falloir commencer à penser à changer cette culture-là, à ramener la première ligne, comme on dit? J'entendais François Legault dire, on va forcer la main aux omnipraticiens pour qu'ils voient plus de patients. Est-ce que ça, c'est une bonne façon de faire?
Ben, moi, je vais vous dire franchement, quand quelqu'un commence à dire qu'il faut changer la culture, là, je pense qu'il ne connaît pas le réseau de la santé. C'est pas une question de culture. C'est une question d'organisation. Puis si les gens vont dans les urgences parce qu'il n'y a pas assez de médecins dans les cliniques médicales pour faire du sans-rendez-vous ou encore il n'y a pas assez de médecins de famille pour les voir. Avant de faire un bon traitement, il faut faire un bon diagnostic. Là, le diagnostic, on a l'impression que c'est la faute des gens parce qu'ils consultent à mauvaise place. Ils consultent à mauvaise place parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Et les médecins, c'est la même chose. On veut tous donner des bons services. Les infirmières veulent donner des bons services. Il faut le faire dans une organisation qui fonctionne bien. Actuellement, le réseau est en manque de personnel. Tant qu'ils n'auront pas fait ce diagnostic-là qu'il manque du monde sur le terrain, c'est difficile d'organiser. On parle d'améliorer les ratios au niveau des infirmières. Même si ça améliore les ratios de patients par rapport aux infirmières, à la fin, si vous n'avez pas assez d'infirmières, puis je vais vous donner un exemple. Moi, on nous dit qu'il faut travailler avec notre personnel. Moi, je travaillais avec des infirmières pendant des années de temps qu'un groupe de médecine de famille. J'avais une infirmière avec laquelle je partageais le travail. Actuellement, ça a été coupé à cause, oui, de la COVID-19. Mais il reste un fait que quand tu perds ton infirmière, tu perds une partenaire de travail, et puis à ce moment-là, c'est toi qui ramasses le travail. Les infirmières ont la même chose avec les préposés. Donc, il y a une question actuellement de manque de main-d'œuvre, et pas seulement une question de culture, c'est une question de manque de main-d'œuvre qui va nous permettre d'avoir une meilleure organisation.
Vous avez été là de 2008 à 2012. Il y a des problèmes qu'on vit aujourd'hui, que vous viviez à l'époque. Auriez-vous espéré que 8 ans plus tard, 10 ans plus tard, ce soit réglé?
C'est qu'il y a des choses qu'on sait difficile à régler parce qu'il y a toujours beaucoup plus de demandes qu'on offre d'offres de services actuellement.
Mais pourquoi? Mais pourquoi en 10 ans, c'est pas réglé? C'est ça la question, dans le fond, que les citoyens vont se poser. Là, vous.
En 10 ans, il va rester encore des problèmes, mais on n'a pas nécessairement les mêmes problèmes. Puis c'est passé des choses entre-temps. Je vais vous donner un exemple. À l'époque, on avait des problèmes avec les personnes âgées. Il y a eu des changements qui ont été faits. On a réouvert on a ressources dans les soins à domicile. Il y a eu des ressources intermédiaires. Mais il y a eu plus de gens qui sont devenus âgés. Puis à chaque année, il y a 50 à 60 000 personnes de plus au Québec. Donc, il faut que les ressources suivent la demande. Également, quand vous regardez l'organisation des services, actuellement, on a des groupes de médecine de famille qui fonctionnent relativement bien, mais il manque de médecins. On a des infirmières qui font un super de beau travail dans les établissements de santé, mais à tous les endroits qu'on voit actuellement, c'est qu'il manque d'infirmières. Elles sont obligées de faire du temps supplémentaire. Le fait de faire du temps supplémentaire, ils s'en vont dans des agences privées. Et puis, des agences privées, ça a passé 200 millions à 1 million de dollars de coûts au gouvernement, qui est beaucoup plus cher que d'avoir notre propre personnel. Donc, il y a des choses qui ont été réglées, puis il y a des choses qui, malheureusement, ont empiré. Et puis, la COVID ne peut pas aider. Là. Ça fait 2 ans qu'on a avec des difficultés quand même importantes en termes de gestion du réseau à cause de cette pandémie-là. Mais ça n'excuse pas qu'actuellement, il y a vraiment un manque de main-d'œuvre dans notre réseau de la santé.
Bon, ça, c'est l'un des gros problèmes, ce manque de main-d'œuvre-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous faisiez le diagnostic, là, parce que là, vous avez vécu ce rôle de ministre, vous l'avez vu, cette machine-là, d'en haut. Vous êtes retourné sur le terrain, vous le vivez un peu plus sur le terrain. Ces deux perspectives-là, à part la main-d'œuvre qui est vraiment un gros enjeu, puis pas juste en santé, là. À part ça. Là.
L'autre élément, là, il disait, on fonctionne encore avec des fax, mais moi, ce que j'ai vu dans les dernières années, on s'est beaucoup informatisé dans le réseau. Quelqu'un vient dans mon bureau, moi, j'accepte toutes ces informations, puis là, le dossier Santé Québec qui est mis en place. On a des communications maintenant beaucoup plus électroniques que par fax. Fait qu'il nous ramène des anciens diagnostics qui, aujourd'hui, d'après moi, n'existent pas vraiment. Et puis, là, c'est encore là, on essaie de faire passer sur des choses qui dataient de longtemps les problèmes, alors que le réel problème, les données existent. Ça prend quelqu'un qui les analyse, puis qui est capable de faire un bon diagnostic, puis un bon traitement. Je vais vous donner un exemple. Pour les personnes âgées, ben hier, on sait qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau des personnes âgées. Il faut réorganiser notre service de première ligne. Ben, hier, il nous a dit que ça prendrait un nouveau rapport qui va prendre un certain temps, qu'il va falloir qu'il soit étudié. Fait qu'on a encore pour un an et demi à attendre des solutions qui, d'après moi, pourraient être mises en place. Mais pour les mettre en place, ça prend du personnel pour être capable d'aller à la maison s'occuper des gens, ce qu'on n'a pas actuellement.
On le crée comment, ce personnel-là? On le trouve où?
Ben, le gros problème, il est là actuellement. Et qu'en plus de ça, à cause du fait qu'on dit que les conditions sont tellement difficiles, ce qu'on voit également dans nos écoles, au niveau des infirmières, des inhalothérapeutes, les autres professionnels, les gens sont moins intéressés à venir en santé parce que les conditions de travail sont moins bonnes, puis ils ont peur de perdre du temps supplémentaire. Fait qu'en plus de ça, le fait d'être en crise, ça décourage les gens de venir étudier avec nous autres. Il y a un manque de main-d'œuvre, pas juste en santé, partout au Québec. Donc, il faut avoir une stratégie pour être capable de recruter. Mais quand on nous dit qu'on va les recruter à l'extérieur, aller chercher une infirmière en Europe, avant qu'elle vienne travailler ici, ça prend 2 à 3 ans pour passer toutes les étapes. Donc, c'est certain qu'il y a une crise là, puis ça, en attendant, ça prend une certaine réorganisation. Mais c'est pas parce que les gens veulent pas bien faire, c'est pas parce qu'on sait pas quoi faire, mais on a un problème de ressources actuellement.
Mmh. Puis si vous aviez un bon conseil là, à donner à Christian Dubé, là, comme ancien ministre, qui l'a vu, qui a eu le temps de digérer tout ça, qui a eu le temps de voir les effets de son passage, le fait que vous avez essayé des choses, tout n'a pas fonctionné. Ça vient un conseil ou deux à lui donner, M. Dubé, là, pour que ça fonctionne dans le but que les Québécois, là, pas politique, là, mais dans le but que les Québécois puissent avoir un système de santé digne de ce nom, que les Québécois aient des services et que l'argent qu'on paye dans nos impôts nous serve à quelque chose.
Ben, juste pour vous dire, là, on voit les problèmes. Moi, ce que je vois dans mon bureau, il y a beaucoup de demandes aux gens qui ont des infarctus, qui ont des cancers du poumon, qui sont en soins palliatifs. On a des excellents services au Québec. Il y a beaucoup de gens qui ont des excellents services, sauf qu'il manque de services dans certains secteurs. Il ne faut pas dire que le système au Québec n'est pas bon. Il y a beaucoup de bonnes choses. On l'a vu aussi avec la COVID, quand il est arrivé l'organisation de services pour la vaccination, ça a bien été parce qu'on avait cette organisation régionale-là qui était décentralisée localement. Donc, de toujours dire que ça va mal, là, il faut faire attention. Notre espérance de vie est beaucoup améliorée. On a un problème de délai en termes d'accès. Mmh. Et lorsque vous rentrez dans le système, vous recevez quand même des excellents services. Nos professionnels sont très bons à tous les niveaux.
Et donc, votre conseil pour M. Dubé?
Donc, le conseil de M. Dubé, oui, il faut regarder pour décentraliser, mais être logique. L'autre affaire, on a déjà les données pour être capable de prendre des bonnes décisions, puis il faut les mettre en place. Et aussi, il faut planifier que si on ne fait rien aujourd'hui, dans 2, 3, puis 4 ans, on va avoir encore plus de problèmes. Et surtout, c'est comment on fait pour aller chercher de la nouvelle main-d'œuvre et la retenir. Je pense que mettre fin aux agences, ça, c'est une bonne façon, mais la façon de le faire, il faut le faire de façon progressive. Au niveau des médecins de famille, plutôt que de vouloir demander à tout le monde d'en faire plus, il faut qu'ils en forment plus. On est en déficit d'à peu près 1 000 médecins de famille. Si on ne reconnaît pas qu'il y a un déficit et qu'on ne travaille pas aujourd'hui, dans 10 ans, on va se parler encore des mêmes problèmes.
M. Bolduc, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Philippe-Vincent Foisy. Une nouvelle perspective de l'information.
Cube Radio.
Le commentaire de
Sophie Durocher, des idées pas comme les autres.
Salut Sophie.
Bonjour Philippe-Vincent, écoute, beaucoup d'annonces évidemment de François Legault hier, et t'as peut-être entendu pendant qu'il faisait sa conférence, à un moment donné des gens, tu m'as peut-être entendu crier un grand hallelujah à un moment donné.
Je pensais à toi puis à Benoît hier, ouais.
À Benoît Dutrisac aussi.
Oui, il en a parlé ce matin aussi. Il était très content, lui aussi.
De la fin du cours d'éthique et de culture religieuse, donc qui va être remplacé par un cours de citoyenneté, de culture, etc. Alors moi, le cours d'éthique et de culture religieuse, ça fait des années que je l'appelle le cours d'éthique et de propagande religieuse. Mmh. Je suis pas la seule, on est très nombreux à dénoncer ce cours-là. Qui rien de moins, on va se le dire, ça a été un cours de lavage de cerveau des jeunes Québécois pendant des années où on a instillé dans leur esprit que toutes les religions se valent, qu'il faut surtout pas critiquer les religions, et surtout on a instillé dans l'esprit des gens que un enfant peut être d'une religion ou d'une autre. Et j'ai toujours dit, Philippe-Vincent, à quel point c'est une aberration. Dire qu'un petit enfant est juif ou qu'il est catholique ou qu'il est musulman ou qu'il est hindou, c'est aussi ridicule que de dire qu'un enfant est caquiste, qu'il est libéral. Les parents ont une religion. Un enfant n'a pas de religion. Et dans les cours d'éthique et religieuse, on représentait les enfants selon des signes religieux. Donc, tu avais des images de petits enfants de 7 ou 8 ans avec une kippa sur la tête, un voile, une croix dans le cou. Ben non, les enfants, tu demandes à tes enfants qui vont à l'école, est-ce qu'il y a des juifs puis des catholiques à l'école? Ils vont dire non, maman, il y a des enfants. Il y a des enfants à l'école. Et moi, j'ai écrit pendant des années là-dessus, et entre autres, quand mon fils donc allait à l'école puis revenait avec son livre d'éthique et de culture religieuse, je le passais le livre au peigne fin, et je suis tombée sur des aberrations. Je t'en raconte une que j'avais déjà racontée dans mon blog du Journal de Montréal. C'est une mise en situation, c'est deux petites filles qui sont à la cafétéria, et elles sont en train de manger. Il y en a une qui mange et l'autre mange pas. Donc, évidemment, Camilla ne mange pas. Pourquoi? La Stéphanie lui demande « Pourquoi tu ne manges pas? » Elle dit « Ben moi, je fais le ramadan. Je mange pas, je jeûne pendant un mois. » Et là, la réaction de la non-musulmane, c'est de dire « Mais c'est terrible, tes parents t'imposent ça. Moi, je t'assure que personne ne pourrait m'obliger à faire une chose pareille. » Et Camilla répond « Ne t'inquiète pas, je le fais au nom de ma foi et je suis très heureuse de le faire. » Donc, déjà, elle est en train d'instiller dans l'esprit des jeunes que c'est parfaitement normal d'arrêter de manger alors que t'es à l'adolescence, que t'es en pleine croissance. Mais c'est encore plus pernicieux parce qu'on nous dit, on pose des questions aux jeunes qui sont exposés à cette situation hypothétique-là, et on leur dit, mais qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Laurence à l'égard de la diversité? Est-ce que c'est approprié? Ben, je m'excuse, mais la diversité, c'est toutes sortes de choses. C'est pas un comportement de quelqu'un qui arrête de manger, qui jeûne. Puis là, on est en train de dire, est-ce que c'est approprié la réponse de Laurence au comportement de Camilla? Ben, je m'excuse, mais moi, quand mon fils est revenu à la maison avec ce livre-là, j'ai été obligée de lui expliquer qu'on pouvait tout à fait critiquer. On peut critiquer des comportements, on peut critiquer des dogmes, on peut critiquer des religions. Et ce que le cours d'éthique et culture religieuse n'a jamais fait, c'est développer l'esprit critique des jeunes. Au contraire, on laissait entendre que si t'aimais la moindre critique, t'es contre la diversité. Je m'excuse, moi je revendique que on doit apprendre à nos enfants à développer un esprit critique. Puis je m'excuse, mais toutes les religions sont misogynes. Pourquoi on n'en parlait pas dans les cours d'éthique et de culture religieuse, alors que supposément on fait la promotion de l'égalité homme-femme? Je le dis, toutes les religions sont misogynes. Non,
mais tant qu'à réviser notre histoire puis à regarder les erreurs du passé, on pourrait le faire avec les religions aussi.
Ben oui, puis on pourrait aussi surtout apprendre à nos enfants à réfléchir au lieu de répéter des âneries. Et donc, je suis très contente, je dis bon débarras. Et d'ailleurs, plus tard à l'émission, je vais recevoir aujourd'hui Nadia El Mabrouk, qui a été pendant des années une des personnes qui a été le plus justement en opposition, puis qui a fait des représentations auprès du gouvernement pour dire il faut mettre fin aux cours d'éthique et de culture religieuse, alors qu'elle est elle-même issue justement de la culture arabo-musulmane, et elle trouvait la représentation justement. Elle racontait d'ailleurs, c'est intéressant, Philippe Vincent, elle racontait qu'à un moment donné, son fils est rentré à la maison, puis il l'a regardé, puis lui a dit « Maman, pourquoi t'es pas voilée, toi? » j'arrive de mon cours d'éthique et de culture religieuse à l'école, puis chaque fois qu'on parle des musulmans, on les représente avec un voile sur la tête. Et non, mais
mais c'est pas drôle, là.
Puis elle est enseignante, Nadia El Mabrouk, est enseignante à l'université. Je veux dire, c'est ça qu'on instille dans l'esprit des gens. Puis c'est correct, il y a des gens qui sont voilés, il y a des gens qui sont pas voilés, mais pourquoi quand on représente les gens d'une religion, on les représente systématiquement voilés, alors que c'est un choix de la personne, mais on en fait comme le standard. Donc c'est vraiment, je n'ai que un mot à dire, ben deux mots, bon débarras. Bon débarras pour les cours d'éthique et de culture religieuse.
J'ai hâte de voir les réflexions sur ce prochain cours de citoyenneté québécoise. Qu'est-ce qu'on va mettre
là-dedans?
Qu'est-ce qu'on ne mettra pas là-dedans?
C'est la grande question.
Aïe, 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 Duplessis, wow. En tout cas, j'ai plein d'idées, mais on en reparlera plus tard. Oui. On pourrait faire un gros brainstorm, là. Ça serait intéressant comme émission. Parle-moi de Wajdi Mouawad.
Bon, Wajdi Mouawad, donc, homme de théâtre, c'est à lui qu'on doit, entre autres, la pièce Incendie. T'sais, Denis Villeneuve en avait fait un film magnifique, donc, d'origine libanaise, mais citoyen canadien, citoyen québécois. Donc, maintenant, il fait beaucoup carrière en France. Et on se rappelle, il y a quelques années, il devait présenter un spectacle ici avec Bertrand Cantat. Bertrand Cantat, c'est ce musicien extraordinaire, mais qui a posé un geste absolument effroyable. Il a assassiné à coups de poing sa campagne, Marie Trintignant, il y a plusieurs années de ça. Il a été condamné à la prison. Il a fait son temps en prison. Et depuis ce temps-là, se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec Bertrand Cantat? Wajdi Mouawad, lui, a aucun problème à faire monter Bertrand Cantat sur scène, à solliciter Bertrand Cantat pour faire de la musique. Et donc, il présente une pièce de théâtre, Wajdi Mouawad, et c'est la musique qui a été faite par Bertrand Cantat. Et là, il y a plein de gens qui disent, ben nous, ça nous pose des problèmes d'éthique. Wajdi Mouawad, il dit, moi, je ne veux pas me substituer au système de justice. La justice a été rendue. Donc, je comprends tout à fait le principe de la deuxième chance. C'est un principe que moi-même, je défends. Mais il reste quand même que Wajdi Mouawad est en train de nous dire que lui, il n'y a aucun problème moral, aucun problème personnel, aucun problème de conscience à s'asseoir puis à discuter puis à être ben chum avec un gars qui a quand même fessé tellement fort dans la femme supposément qu'il aimait qu'elle en est morte. Il n'a même pas appelé les secours. Il était complètement paf. Et moi, je veux dire, il a le droit. Il a bien sûr le droit de demander à Bertrand Cantat de faire la musique pour un de ses spectacles. Moi, j'ai le droit de dire, je trouve absolument inconcevable d'aller m'asseoir dans une salle de spectacle et d'écouter de la musique qui a été composée par un, pas juste un batteur de femmes, un tueur de femmes. Et je comprends pas l'obstination de Wajdi Mouawad de vouloir constamment donner de la job à Bertrand Cantat. Il y en a plein de musiciens sur la terre. Puis c'est pas, supposément un gars qui est pour le vivre ensemble, puis pour la paix, puis pour l'égalité homme-femme, puis tout ça. Mais tu t'en vas quand même dérouler le tapis rouge pour un gars qui a commis un acte absolument épouvantable, et ne serait-ce que pour la mémoire des parents de Marie Trintignant, Nadine Trintignant et Jean-Louis Trintignant. Moi, je personnellement, je serais incapable de m'asseoir dans une salle de spectacle puis d'entendre la musique de Bertrand Cantat et de l'applaudir à la fin. Je suis pas capable.
Sophie, merci beaucoup.
À demain.
Bonne émission.
Merci.
Richard, bonjour.
Salut. Hier, lorsqu'on a appris là, que l'ancien maire de Terrebonne s'en était sorti là, facilement grâce à des gaffes commises par l'UPAC, il y a des gens qui disaient, plusieurs personnes disaient, oui, mais tu sais, là, il y a un nouveau directeur de l'UPAC, il y a une nouvelle administration, ça, c'était commis, ces gaffes-là, dans l'ancienne administration. Non, non, non.
Non, non, c'est ça. Hein?
On apprend aujourd'hui que c'était sous la nouvelle administration. Donc, écoute, more of the same, comme disent les anglophones, mais c'est vraiment, ça alimente au bout le cynisme
c'est
des
fou,
gens.
Hein?
Là. Ils avaient des informations minant la crédibilité d'un témoin de la couronne, et finalement, ils les ont cachées. Ils ont décidé de ne pas les transmettre. Et,
ce que tu n'as pas le droit de faire.
Ben, j'ai pas mon barreau.
Non, non, mais c'est ça que les avocats disent. Non, 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 non.
Ben,
est-ce que les avocats nous ont dit ça?
Non, c'est ça, là, on sait ça. Il me semble qu'il y a des choses qu'on. Tu sais, l'UPAC avait décidé à un moment donné, des enquêteurs de l'UPAC, de mettre sous écoute électronique un cabinet d'avocats pour écouter les conversations d'un avocat avec son client. Mais voilà, qui sait que t'as pas le droit de faire ça, voyons donc. Alors, tu sais.
Ah c'est hallucinant. C'est...
Un problème avec l'UPAC encore.
Eh bien, on n'a pas parlé ça dans le discours d'ouverture de François Legault, pourtant. Salut Richard, bonne émission. Merci à tout le monde. On se retrouve demain. Cube Radio.